Eurovision 69.
The country that got the second highest vote is
Eurovision 69
with 253 points is Cyprus, which means
that Israel is the winner of Eurovision Song Contest 2018.
The winner is Israel.
Eurovision 69.
Eurovision 69.
Il s'est fait attendre, mais bonjour, bienvenue pour le podcast 90, déjà, d'Eurovision 69.
Bonjour, Aitor à Paris, très content de vous accueillir dans le podcast numéro 1 de la saison numéro 7, déjà.
Et bonjour Farouk à Paris.
Bonjour Olivier à Paris aussi.
Et, alors
et donc on commence tout de suite, bah oui c'est moi, oui c'est moi qui commence, avec la chanson donc, qui a gagné cette édition 2018 de l'Eurovision, c'est Neta avec Toy. Dans ce podcast on revient comme chaque année, le premier podcast est consacré, on revient un peu sur l'Eurovision qui a eu lieu. Donc là on commence avec la chanson gagnante, Israël Neta avec Toy. Je laisse mes camarades en parler.
Ah oui.
Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de Neta, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, qu'on s'était pas trop trompé parce qu'elle avait gagné notre podcast. Pas les goûts, mais les pronostics. Elle avait gagné dans notre podcast. C'était la grande favorite. Et juste jusqu'à la dernière minute, enfin, la semaine de l'Eurovision, elle est un peu tombée. On a pensé qu'elle gagnerait pas, mais finalement, bah oui, vous savez, oui, elle a gagné. On croyait que ça serait un grand succès international. Et par contre, là, on s'est un petit peu trompé, je pensais, parce que, moi, personnellement, j'ai pas trop entendu parler d'elle. Un petit peu la Gay Pride de Madrid, je pense, mais je sais pas. Ethan, t'étais content de sa victoire?
Content non, parce que je pense que ça va être un gros bordel l'an prochain. Donc voilà, pas hyper content qu'Israël l'emporte, même si c'est un pays que j'ai très envie de visiter. Mais pas dans ce cadre-là. Après la chanson, bon bah... C'est-à-dire que c'était le truc le plus efficace sur la base des vidéoclips. On s'attendait tous à cette victoire. Tout le coup, on la pensait tous possible. En live, elle nous a un peu déçus, tous, sur place. Parce que c'était quand même moins puissant que le clip. Comme quoi, la chanson, ça compte. Et puis, même si c'était moins puissant que le clip, c'était quand même très bien. C'est pas une victoire volée du tout. Elle est largement méritée. Donc, bravo Israël, bravo Anita. Voilà. C'est pas ma gagnante à moi.
c'est pas ma gagnante à moi non plus. Je pense que si Neta a remporté l'Eurovision, elle le doit aux jurés professionnels, qui d'habitude n'aiment pas ce genre de chansons. Mais qui cette année, à cause du mouvement MeToo peut-être, ont été très indulgents par rapport à un type de titre auquel ils n'adhèrent pas d'habitude. Je me rappelle l'Italie qui avait fini 5 ou 6e chez les jurys, la Russie aussi il y a quelques années, qui ont perdu à cause de ces jurys. Et cette année, les jurys ayant mis Neta 3e, ils lui ont permis de gagner. Est-ce que c'est une victoire méritée? Ethan l'a dit, j'ai pas été bluffé par sa prestation. La chanson a fait un petit peu un flop cette année. C'était censé être le tube de l'été, on l'a pas entendu. Faut dire qu'elle a pas eu de chance parce que à peine rentrée en Israël, l'actualité s'est déplacée sur le plan politique dans son pays. On a très vite oublié avec les événements à la frontière entre Israël et Gaza que Israël avait gagné l'Eurovision. Donc voilà, une victoire dont qu'on oubliera très très vite à mon avis.
Bon. Je peux vous dire que par rapport à ce qu'a dit Ethan aussi, par rapport au bordel, moi, ça a été un bordel. Mes amis, vous ne l'avez pas écouté, mais comme vous écouterez les podcasts, les montages, et écoutez, savoir comment dire Eurovision 69 en œuvre, je vous rassure, parce que vous savez qu'au début du podcast, il y a toujours Eurovision 69 en plusieurs langues, français, espagnol, la langue du concours et en anglais. On l'a dit toujours comme ça. Bah, en œuvre, j'ai eu vraiment du mal. Et je vous dis pas le temps que j'ai passé pour je vous dis que ça fait, non, j'ai même plus comment ça dit. Je vous le dirai tout à l'heure, je vous le dirai. Parce qu'il faut qu'on apprenne l'hébreu. Aujourd'hui, comme les podcasts, ça va être très long, on verra pas des mots hébreux, mais sachez que j'essaie de dire maintenant 69 en hébreu. C'est important, c'est important. Et on va passer par contre à la chanson numéro 2 de notre podcast. Et c'est moi qui la présente, j'y pensais. Bah, on écoute en musique, et comme ça, bah, voilà, vous allez savoir.
Lord, I'm gonna get so high tonight.
Voilà, cette magnifique voix, si grave comme la mienne. Hein? Non, c'est pas, je voudrais bien, mais non, c'est pas les gars. Mais bon, c'était César Samson de l'Autriche qui il n'a pas gagné l'Eurovision, mais il a par contre gagné le vote des jurys. Pendant la première partie des votes, César il avait gagné. Et c'est vrai que si on regarde un peu le classement de notre podcast avant concours, bah, on avait mis. Enfin, entre tous les Eurofans qu'on avait voté, on avait mis César Samson très haut, on a mis tous, mais c'est vrai que personne pensait qu'il a fini si on s'est dit c'est une chanson qui est très bien, mais non, les gens vont pas voter pour ça. C'est vrai, les gens n'ont pas forcément voté pour ça parce qu'ils ont classé qui est 13e, un truc comme ça, il me semble. Mais voilà, un 3e, très belle place pour l'Autriche, je pense qu'elle est très 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 méritée, hein. Je suis content pour l'Autriche. Ethan.
Alors, j'ai vu Aitor jeudi dernier et je lui disais, ah ouais, moi je sais pas de quelle chanson j'ai envie de parler. Par exemple, l'Autriche, j'adore, mais j'ai rien de spécial à dire dessus. Si, et il m'a dit, mais si, le pantalon. Et c'est vrai, faut quand même parler de ce pantalon. C'était affreux, le pantalon. Sinon, bon, il est tout mimi, tout plein, lui. La chanson était très bien. La prestation, pas trop mal. Sa petite course sur le catwalk, c'était assez raté, je trouve. Tout du moins, la remontée sur le plateau principal. Mais sinon, c'était bien, quoi. Sauf le pantalon. Le type qui lui a pondu ça, vraiment, faut le virer de la délégation. Je sais pas qui c'est, mais vraiment, grosse erreur. Voilà. Sinon, moi, je suis très content qu'il soit aussi haut dans le classement final, aussi haut dans le classement des jurys. De façon générale, moi, je suis toujours plus d'accord avec les jurys qu'avec le télévote. On le verra sur la chanson suivante. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Eh ben, ma chérie, comme dirait Christina Cordula, parce qu'en fait, Ethan, c'est notre Christina Cordula Eurovision 69, hein, on peut le dire. C'est l'adepte du bon goût vestimentaire.
Oui, pas forcément du bon goût, mais.
Ah ben, tu es quand même un pro. Moi, franchement, le pantalon, je m'en fiche un peu. C'est vrai que c'était un petit peu n'importe quoi, ce pantalon, mais c'était pas le plus important. C'est une bonne chanson, effectivement, et pendant un court instant, on a rêvé d'une victoire de l'Autriche, et on était très content de retourner à Vienne. Moi, franchement, quand j'ai vu l'Autriche numéro 1, d'abord, c'était une surprise, parce que personne, mais vraiment personne l'a vu venir, celui-là. Il faut quand même le noter. C'est les jurys ne nous ont jamais fait ça jusqu'à présent, nous sortir une chanson comme ça de n'importe où et la mettre comme ça en tête. Et pour dire à quel point c'est surprenant, même au niveau des jurys, ils n'avaient pas remporté sa demi-finale. Donc c'est vrai que c'est vraiment très étonnant. Et puis bon, bah, on se doutait que le public n'allait quand même pas le mettre dans son top 5. C'est dommage, moi j'aurais aimé retourner à Vienne.
J'ai juste rajouté un petit truc, j'avais pas prévu de parler sur cette chanson. Vous étiez sur place, donc voilà, vous avez vu en live, à la télé, avec les incrustations, quand on le voit arriver en grand, ça fait quand même un peu secte. Hein. Secte Moon, secte de l'ordre du Temple solaire ou des trucs comme ça. Ça faisait un petit peu bizarre, quoi. Après, il s'élève sur son vaisseau spatial. C'est un peu bizarre la prestation à la télé.
Olivier, à une époque où les gens votent Donald Trump ou Bolsonaro, je vais te dire franchement...
Oui, c'est vrai que c'est plus étonnant. Oui, t'as raison.
Temps, hein.
Et juste... Ce que je voulais dire. Et par rapport au pantalon, moi je pensais que tu n'allais pas parler vraiment du pantalon, mais ce qu'il y avait dessous les pantalons, parce que les photos...
Ah mais ça c'est tout pareil, hein. Si c'est une secte, moi je veux bien qu'il soit mon gourou. Hein.
Tu m'entends quand j'ai dit ça, Ethan? Parce que t'as entendu?
Oui, j'ai
entendu. Ah, pardon. J'ai cru qu'il
y avait. Par contre.
Ah, je croyais que mon micro avait disparu, excuse-moi. Ben voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de photos qui ont circulé par rapport à ce qu'il portait, pas le pantalon, mais les parties, voilà, très, voilà.
Je dirais pas, mais oui. Il y a des slips sur son pantalon.
Voilà. Mais désolé. Bon, bah, on passe à la chanson numéro 3 parce qu'il y en a beaucoup et un concours des 43 chansons. Il faut qu'on fasse un résumé. On passe à la chanson numéro 3. Allez, on écoute aux musiques, mes amis.
Et les applaudissements que vous avez entendus avant la prestation suédoise sont un contraste terrible avec le résultat de Benjamin, je ne sais pas si on prononce Benjamin en...
Benjamin,
en suédois. Voilà, le résultat au télévote, c'est quand même terrible pour lui. Pour moi, c'est une des plus grosses injustices du télévote depuis bien longtemps. Je sais la haine que beaucoup éprouvent envers la Suède à l'Eurovision. L'Australie a à peu près le même souci avec le télévote. Mais là, pour moi, c'est quand même vraiment incompréhensible. Qu'on le mette pas premier, je peux comprendre, parce qu'on peut trouver ça froid, un peu trop millimétré, et je suis conscient que ça plaît pas à tout le monde, que les gens, enfin certains ont envie de choses plus spontanées. De là à se prendre une telle gamelle avec une chanson que moi je trouve plutôt dans l'air du temps, assez efficace, plutôt bien servie, une prestation bluffante quand même. D'un point de vue image télé, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Je le pensais déjà sur le Melody Festivalen. Ils ont réussi à le reproduire ici, avec quelques difficultés techniques sur les répétitions, mais quand même, voilà. Pour moi, le résultat du télévote me paraît incompréhensible.
Eh ben, je vais être d'accord avec Ethan, mais je pense que le public a été très sévère avec la Suède. Je me l'explique pas, même si pour moi, ça méritait pas un top 10, mais être dans les 20e, là, j'avoue que c'était un choc. Je pense qu'effectivement c'était très froid, trop calibré, pas assez naturel. Par ailleurs, c'est pas lui qui chante une bonne partie du refrain, mais tous les chœurs derrière. On a trouvé que la mise en scène était géniale, ben finalement non. Peut-être qu'on est trop habitué à ce genre de choses et que le public n'a pas adhéré. Je crois pas que le public déteste la Suède comme il déteste l'Australie. Mais c'est vrai que c'était très surprenant. Je dirais que moi j'aurais rééquilibré les choses. Je pense que le jury a été, je pense que le public a été très sévère, et je pense que le jury a été très indulgent. Deuxième, ça méritait pas.
Je n'ai rien à rajouter en fait. Enfin, c'est un condensé de ce que vous avez dit tous les deux, donc je vais pas rajouter plus. Non. Là aussi, je trouve ça sévère du public. Alors que j'adore la chanson, même si c'était pas ma chanson préférée de ce concours, c'est la chanson que j'ai fredonnée depuis très longtemps, que je fredonnais et que je fredonne encore. Parfois, je m'en rends même pas compte. Enfin, c'est au bout d'un petit moment, je dis ah, mais c'est la chanson suédoise que je suis en train de fredonner. C'est la seule et je comprends pas le vote du public.
Oui. Bon, je vais pas rajouter beaucoup parce qu'on est là tous d'accord dans la même chose. Hein. Les classements, et c'est deuxième jury, 23e du télévote. Pourra finir 7e. C'est un truc complètement contradictoire. Et juste l'anecdote, c'est que mon petit neveu qui est devenu Rofa cette année adore l'Autriche qu'on vient d'écouter, et il adore la Suède et elle aime pas mal l'Israël de toutes les chansons de l'Eurovision, parce qu'après il n'écoute que 5 ou 6 ou 7, mais puis ces 3, il les a beaucoup aimés. Donc, c'est où s'en foutait, mais pour dire qu'un gamin aime ce type de chansons aussi. Bon, on passe à la chanson suivante, c'était pour dire quelque chose. C'est une chanson qu'on écoute en musique. Hein, qu'on écoute en musique.
On attendait la France chez le Big Five et c'est l'Allemagne qui est arrivée. Michael Schulte avec You Let Me Walk Alone nous a fait une prestation absolument magnifique. Les Allemands ont vraiment travaillé. Ils ont trouvé l'idée géniale avec ce visuel derrière qui présente les photos du petit Michael avec son papa décédé et toute sa famille. Et puis les effets de couleurs, vraiment, c'était à l'écran, ça rendait super bien. On avait dit que la chanson était un peu molle au début, mais que le final était magnifique. Ça s'est retrouvé amplifié en live et en télé. Et moi, pour vous avouer, j'ai même cru qu'il pouvait remporter le concours, parce que pour moi, c'était vraiment parfait. Bravo aux Allemands pour le boulot qu'ils ont abattu. Ils ont réussi à propulser une chanson qu'on pouvait trouver plutôt moyenne, très haut. Et c'est ça que j'aime bien à l'Eurovision, quand les gens bossent et que ça porte ses fruits.
Comme quoi, le visuel fait beaucoup de choses. La mise en scène. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref,
je suis complètement d'accord avec Olivier. C'était la même phrase que j'allais dire. Parce que moi, je pense que la chanson n'est pas mal et que l'interprétation était très bien. C'est la mise en scène qui était très belle dans l'année où il n'y a pas de LED. Bah, ils mettent, que c'était pas de LED d'ailleurs, c'était des projections. Et on a l'impression que c'est magnifique. Alors que vous vous rendez compte, enfin, la plupart dans les tops, ce sont des chansons qui ont fait des trucs visuels très impressionnants. Dans une année où la scène, bon, on en parlera tout à l'heure, la scène merdique, ils mettent une projection et tout le monde, tout d'un coup, ils disent c'est magnifique. Alors, si vous regardez la finale nationale, c'était exactement la même chose et personne n'en parlait. Et c'est pour ça que moi, je suis un peu révolté. Parce que pour moi, l'Allemagne, elle a fini dernière, les dernières années avec des chansons mille fois meilleures. Enfin, non. Pas tout. L'année dernière, par contre, non, mais celle de la nana qui était en habillée japonaise, pour moi, c'était une de mes favorites, elle a fini dernière. Celle qui est de Réétan en 2015, qui était la favorite d'Étan, a fini dernière. Pour moi, c'était une insulte. Et celle-là, qui n'était pas forcément meilleure, finit dans les top 5. Pour moi, c'est injuste. Je me révolte, mais si la qualité, elle était là. Étan. Hein.
Alors, je suis d'accord avec toi sur tous les éléments quand je les regarde un par un. Sauf que, si vous suivez nos podcasts depuis quelque temps, vous savez qu'Aitor, il pleure sans arrêt. Dès qu'un truc le touche un peu, il se met à chialer. Moi, pas du tout. Je suis assez froid. J'adore les chansons qui me font danser ou rire. Et c'est rare que je sois touché au point d'être ému aux larmes. Et cette année, j'ai pleuré à l'Eurovision pendant la finale jury du vendredi soir. C'était la première fois que je voyais l'Allemagne dans la salle. Je l'avais déjà vu à l'écran, je trouvais ça très beau, très bien fait. Et en live, il y a eu un truc de... Il m'a touché au point d'en avoir les larmes aux yeux. C'était pas non plus des larmes de crocodile, hein, mais vraiment, il y a eu... Ils ont réussi à produire quelque chose qui m'a beaucoup ému. Même si, effectivement, la chanson n'est pas extraordinaire, il n'a pas un charisme fabuleux, la mise en scène était finalement assez simple, très très bien pensée, mais assez simple. C'est la combinaison du tout, quoi, le whole package dont on parle régulièrement. Il l'avait et moi ça m'a complètement embarqué. En tout cas sur la première fois en live, j'étais bouleversé.
Mais j'étais pas le seul. Il y a plein de gens qui l'ont reconnu que vraiment ils étaient au bord des larmes, hein, avec cette chanson. Hein. Il a vraiment réussi à émouvoir les gens sur place. Mais je pense qu'il a réussi à transporter cette émotion à travers l'écran. Hein. Moi je pense qu'il y a même des gens devant leur télé qui ont dû être émus.
Bah, sans doute.
À travers l'écran ou à travers l'écran derrière, qui avait les projections.
Mais c'est le tout, c'est le tout qui compte.
C'est un package.
C'est pour me moquer de vous deux, mais en fait, je suis d'accord. Et là, vous pouvez comprendre maintenant, du coup, pourquoi moi je pleurais l'année dernière, l'année d'avant, avec le Portugal, quand il a gagné. Pour moi, c'était la même chose. Oui, mais non, mais là, moi, ça me faisait pleurer, c'était la même chose. Mais c'est la même chose que pour vous, l'Allemagne cette année. Ok. Et il n'y a rien à dire d'autre. On va écouter un petit peu quelques secondes ces chansons-là et on va découvrir la chanson qui aurait dû gagner peut-être l'Eurovision. On va voir.
Je suis née ce matin. Je m'appelle Merci.
Et là encore, ça me file des frissons. Même quand on a fini dernier, même quand on a vu la première répétition d'Amir, même quand on a vu Alma disparaître dans son fond d'écran, j'ai jamais été aussi triste pour nos représentants que cette année, pendant la distribution des points, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Madame, Monsieur. Je trouve qu'ils ont eu un parcours pré-Eurovision, post-Eurovision incroyable. Ils ont joué les jeux à fond. Jamais ils ont été négatifs malgré la déception. Moi, j'aime leur performance au concours. Je trouve qu'elle aurait pu être meilleure. Elle a été meilleure sur la première répétition. Il y a des choses qu'on a vues sur la première répétition qu'on n'a jamais revues après. Je pense qu'ils ont été assez mal entourés sur, je sais pas si c'est le chorégraphe, le chef de délégation, j'en sais rien, peu importe. On s'en fiche, maintenant que c'est fait. C'est une grosse déception pour moi. Pas du résultat final, du classement. Voilà, je suis triste pour eux. Après, je suis très content de l'intérêt qu'ils ont soulevé autour de leur candidature, en France comme à l'étranger. Je trouve que globalement, cette année, c'est très positif pour la France. Et voilà, j'espère qu'on entendra encore longtemps parler d'eux.
Eh ben, je suis encore d'accord avec Ethan, c'est vrai que c'est triste. À la différence d'Ethan qui voyait la France gagnante, moi j'espérais un top 10 et je pense que ce qui a pêché, c'est que cette fois à travailler une prestation.
Je t'entends pas. Je
n'étais pas prêt.
On t'écoute un petit peu mal, Farouk. Rapproche-toi des micros, s'il te plaît.
Ah bon ? D'accord. Oui. Donc, je pense que les Français n'ont pas travaillé. Ils n'étaient pas prêts en arrivant. Ça s'est senti, ça s'est vu. Il manquait quelque chose à cette prestation. C'est quand même une chanson à texte. Et lorsqu'on la chante en français, il faut trouver un moyen astucieux de faire comprendre le message au public. Le message n'a pas été compris parce qu'il n'y avait aucun moyen de comprendre à part comprendre le français, et ça c'était problématique. Je suis d'accord avec Ethan, ils nous ont bien représentés et franchement ils auraient mérité ce top 10 quand même. Les jurys ont été peut-être plus durs que ce que j'avais imaginé et le public aussi.
Bah, rapidement, oui, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'espérais beaucoup plus. Je rêvais un peu de la victoire chaque année, comme ça m'arrive en fait comme chaque année. Enfin, ces dernières années, mais voilà. Non, j'espérais quand même beaucoup mieux. Et par contre, je suis pas trop d'accord avec. Enfin, plus d'accord avec Ethan. La mise en scène est mauvaise. Enfin. Comme chaque année,
moi j'aime la mise en espace. Après il y a des problèmes de réalisation, il y a des choses
oui, voilà, quand c'est peut-être, voilà.
Au début le tout premier jet c'était le meilleur, il y avait des gros plans qui étaient plus réussis, l'ouverture quand la caméra tourne autour d'eux était magique la première fois et on l'a plus jamais revue.
Ouais.
C'est des petites choses qui mis bout à bout posent problème. C'est pas une question de déplacement pour moi, la mise en scène à proprement parler, c'est-à-dire je vais d'un point A à un point B à tel moment, ça collait. C'est le travail des caméras, des lumières, ils ont hésité entre le bleu, le vert du début à la fin, entre plus ou moins de fumée. Le mouvement de main, je l'ai jamais aimé, mais au bout du compte, je trouve qu'il fonctionnait pas trop mal. C'est des détails, finalement, des réglages. C'était pas grand-chose. Et ils n'ont pas réussi à faire ces réglages qui pouvaient nous mettre devant.
Non, ah,
c'est vrai que la télé, ça ne la rendait pas bien.
Ça ne va pas. Vous dites là que c'est des petits détails qui font qu'on est 14e. Je pense que c'est quand même un peu plus que ça. La chanson est une chanson pas mal, mais je pense que pour le public, c'était quelque chose de pas du tout accessible. Hein. Je suis désolé. Hein. Moi, tout le monde voyait ça gagnant. Moi, j'ai toujours dit que le top 10 serait un bon résultat.
Mais tu sais, Farouk...
Je ne voyais pas le public voter pour ça. Hein.
Non mais Farouk, c'est pas le problème de, c'est pas compréhensible parce que voilà, Toy, si on savait pas, enfin si on sait pas que c'est le mouvement MeToo, on peut pas le deviner dans la chanson, dans sa prestation. Donc je pense que les présentateurs, comme en France ils ont fait, ils ont expliqué dans le pays que cette chanson parlait de la petite enfant qui s'appelle Merci, qui a été voilà une migrante. Et je pense que le sujet est clivant.
Non, après, il y a quand même une différence fondamentale entre Toy et Merci, c'est la langue. Parce que nous, on regarde ça avec, on entend ça avec des oreilles de Français. Français qui sont nuls en anglais. Mais une majorité d'Européens sont bien meilleurs que nous en anglais. Et ouais. Toy, ils comprennent ce que ça veut dire.
Je suis d'accord.
Et surtout oui, que c'est quand même très répétitif, très immédiat. Not your toy, il n'y a pas à chercher midi à 14h pour savoir ce que ça veut dire, quoi.
Sauf qu'il y a une majorité d'Européens qui ne parlent pas forcément italien. Italien qui est sur un sujet aussi grave qu'est la résistance face au terrorisme.
Oui, mais Italie, on en parlera tout à l'heure. Mais là, il faut la France.
Oui, mais c'est sur des sujets clivants. Les gens sont peut-être plus proches du mouvement MeToo et de la lutte contre le terrorisme que d'aider les migrants, parce qu'on voit qu'en Europe, il y a beaucoup de problèmes avec ça.
C'est un sujet clivant, c'est clair. Voilà.
Donc ça n'a pas dû non plus aider. C'est un petit. Après,
oui, c'est pas grave. Oui, hein. c'est sûr.
Voilà, j'arrête là.
Ok. Non, mais je comprends très bien l'émotion de parler de votre propre pays. Vous ne pouvez pas voter par votre propre pays. Voilà, messieurs, dames. C'est ce que ça donne la France, l'Eurovision à la France. Et moi, vous savez qu'ils n'étaient pas très. Je suis un peu comme Farouk. Je suis d'accord avec ce qu'avait Farouk. Moi, je ne les croyais pas gagnantes, mais j'avoue, vous avez pu lire ce que j'ai écrit quand j'étais à Lisbonne. Et Ethan, il était super convaincant. Parce que lui, il a tellement cru, comme il a deviné aussi pour Conchita, il nous a convaincu pas mal de monde, à tel point que si vous regardez les pronostics, j'avais mis la France dans les top 3 ou un truc comme ça. Moi, j'avais mis Israël, Chypre et France, un truc comme ça. Et parce que Tan, il croyait tellement, j'étais à côté de lui pour regarder le concours, et il était tellement sûr que je disais, mais il ne peut pas se tromper. Mais si vous regardez mon podcast avant concours.
Je pensais que ça se jouerait entre la France et la Suède.
Oui, mais là, pour le coup, quand Tan croit à la France, c'est tellement bizarre qu'il est vrai, quoi. C'était vraiment. Il a réussi à me convaincre. Alors que,
ça ne m'est pas arrivé depuis 1989, les enfants.
Non, 90. Ah, parce que 90, c'était Nathalie Pack. Mais aussi, il faut dire que moi, j'ai eu des Espagnols.
Joël Ursule.
Non, 90, c'était Nathalie Pack avec J'ai volé la vie.
Oui,
Joël Ursule, c'est 90. Mais j'ai eu des Espagnols à Lisbonne qui m'ont arrêté de la rue. Ça, c'est pas une blague. Et qui me dit, parce que pour les Espagnols, je suis français en fait. Qui parlait très bien espagnol. Non, mais je rigole, mais ils savent qu'ils habitent en France. Et du coup, ils me disent, Aitor, vous allez gagner ce soir. Et je disais, mais vous croyez, mais si, c'est clair, la France gagne. Et du coup, quand j'entendais Ethan et les Espagnols me dire ça, bah, j'ai presque cru. Mais après, c'est l'évidence. C'est un truc qui était difficile à atteindre les publics. Ils l'ont pas mal fait vraiment, mais par exemple. On a parlé tout à l'heure, mais les Espagnols s'adoraient. Oui.
Je me demande si les gens n'ont pas tellement envie que la France gagne pour venir faire un concours en France, que dès qu'on a une chanson à peu près bien, ils l'amplifient encore plus en imaginant qu'on peut gagner. On a eu un petit peu ça avec Amir et même avec Amaury Vassili. Oui. Dès que la France a du potentiel, les Eurofans s'emballent parce qu'ils ont tellement envie de venir ici. Ça fait presque 50 ans maintenant.
Oui.
Non, ça va pas.
40,
c'est l'année de ma naissance. Ça va pas, ça fait pas 50 ans. C'est tout.
Bon, en tout cas, tout à l'heure, je vous disais que mon neveu aimait bien l'Autriche et la Suède. Il aime bien, merci. Et mon neveu, il est en train d'apprendre le français. Et l'autre jour, il a chanté avec moi. C'est très beau, hein. Bon, vous en foutez clairement. Mais bon, on écoute la fin et on passe à la chanson suivante, mes amis. Merci,
eux non plus, on ne les a pas vus venir. Ce sont les Italiens Ermal Meta et Fabrizio Moro. D'ailleurs, les jurys non plus ne les ont pas vus venir, puisqu'ils ont été hyper sévères avec l'Italie. Ils les ont classés tout simplement 17e, je crois, ou... Oui, c'est ça, 17e. Et par contre, le public, lui, il a totalement adhéré. Il a probablement déjà adhéré au message, qui était un message qui évoquait le terrorisme en Europe. Mais je pense que surtout, ce qui a fait la différence avec la France, puisqu'on avait un duo, c'est que les Italiens ont bossé. Et ils ont trouvé la bonne idée, celle d'incruster à l'écran le texte de la chanson. Et ça a parlé aux gens. Ce texte, en plus, dans toutes les langues, ça les a parlé encore plus. Et donc, on a la différence entre deux pays, l'Italie qui a travaillé son sujet et la France qui est arrivée pas prête. Pour moi, c'est ça qui a fait la différence. L'Italie au global est cinquième.
Rapproche-toi, Farouk, s'il te plaît.
Je ne peux pas être plus près, je lâche l'écran.
Ah pardon, des fois on te perd, hein. Désolé. Non mais on t'a écouté la plupart des... on a compris, hein. C'est juste la fin que c'est un truc coupé.
Bravo l'Italie.
Oui, ben voilà, c'est un sujet qui n'est pas facile non plus, qui est beaucoup plus fédérateur que le message de la France, on va dire, hein, sur ce sujet-là. Et effectivement, c'était bien fait, même si on ne comprenait pas l'italien, le fait d'avoir des morceaux de la chanson dans toutes les langues, quelques-unes en français, on arrivait à comprendre réellement le message. Enfin, ce qu'ils voulaient faire en tout cas passer, donc oui, bah, ils ont mieux travaillé et voilà, le résultat est là, enfin, le classement est là.
Moi, c'est pour moi un des grands mystères de l'Eurovision parce que franchement, si vous m'aviez donné les points, j'aurais dit troisième jury, 17e jour, télévote, mais pas l'inverse, c'est un truc qui me laisse complètement perplexe que les jurys n'apprécient pas ça. Parce que vraiment, quand tu l'écoutes un peu, tu peux pas dire que c'est mal fait, c'est pas une mauvaise chanson, il s'est très bien interprété. Et par contre, j'ai dit, bah, les gens, ils vont pas adhérer, mais par contre, bah, voilà, le message est tellement bien passé à l'écran que peut-être il a touché. En plus, il a chanté dernière, et quand l'Italie chante dernier, bah, en 2015, ils ont gagné les télévotes et ils ont fini troisième. L'année dernière, que la France était, l'Italie était favorite. Au milieu de la table, enfin au milieu du concours, il a chanté et il a fini que sixième, un truc comme ça, non? Donc l'Italie, c'est pas, on l'oublie, mais quand il chante à la fin, tout le monde pense que c'est magnifique, la qualité, il faut voter pour, je sais pas. En tout cas, classement mystérieux pour moi. Je sais pas. Ethan?
Pour moi, je peux pas dire que ce soit mystérieux, mais quand je disais tout à l'heure que j'étais plus proche des choix du jury que du télévote, ça se retrouve encore là. J'ai détesté la mise en scène, on va dire, les incrustations vidéo, je trouve ça putassier. Après, c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace que ce que la France a proposé. Et puis le thème est plus efficace aussi. C'est quand même plus facile de rallier sur la peur de l'autre que sur son accueil, les bras ouverts. Donc voilà, moi ça me déçoit terriblement que ça soulève l'enthousiasme des téléspectateurs. Même si après la chanson me déplaît pas plus que ça, je trouve qu'ils font le job, c'était effectivement travaillé. Le clip, je le trouvais pas mal, même s'il était tout aussi putassier que la prestation scénique. Voilà, moi je suis plus sur la ligne du jury que du télévote là-dessus.
Bah,
on a tous parlé, Eric.
Ah, excusez-moi. On a tous parlé. On écoute juste la fin de la chanson pour faire la belle transition. Ou non, on écoute la chanson suivante. Parce que celle-là, par contre, elle aurait dû gagner. Elle aurait dû gagner. Vous allez écouter. Imaginar, qu'est-ce que j'adore cette chanson qui aurait dû gagner l'Eurovision. C'est la chanson de l'Espagne, Tu Canción, de Amaya y Alfred. C'est pas la surprise, on s'attendait ça, mais bon, vous savez que c'était dans mon top 3. Moi, c'était ma chanson qui m'a presque fait plus pleurer cette année. Je suis très triste et pas son classement. On va rigoler un petit peu. Bon, 18e du jury, 24e du télévote, 23e global. On a fait mieux que l'année d'abord avec Monsieur Navarro et les Cocorico. Et bon, au moins, l'Espagne était plus originale parce qu'il a mené les coques avant la poule de l'Israël, si on peut dire. Et l'Espagne a été basculée, je sais pas comment dire. Tout le monde a regardé l'Eurovision quoi cette année, à nouveau comme le phénomène Rosa. Donc ça c'est la bonne nouvelle de l'année, c'est que Opération Triunfo à nouveau il a apporté des nouveaux fans au concours. Une nouvelle génération de jeunes ont découvert l'Eurovision grâce à Opel Athens Triumphant. Et j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est pas lié à un truc lié à ça. Mais c'est, ça, c'est la, le côté positif que je peux regarder, c'est ça. C'est que les gens ont vu l'Eurovision avec un autre œil parce qu'ils voulaient voir Amaya Alfred. Et du coup, ils ont découvert d'autres choses qui n'étaient pas si mal que ça. Et il y a des succès et des chansons de l'Eurovision en Espagne cette année. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Les classements de Amaya Alfred, c'est pathétique. Eux-mêmes, quand ils ont fait la conférence de presse, ils ont dit c'est una mierda, ils ont dit littéralement, mais en fait ils sont des personnages qui s'en foutaient complètement, ils étaient à leur obligé, c'était pas leur rêve, donc ils vont continuer leur carrière, c'est pas grave pour eux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Opération Triumph a lieu cette année. Bon, la bonne nouvelle ou mauvaise pour certains, mais moi, il a commencé déjà. Je regarde, je suis fan, je suis accro, comme Ethan le sait. Je regarde tous les mercredis soirs. Et ils sont déjà annoncés, ce qu'ils n'avaient pas fait l'année dernière, ils sont déjà annoncés que c'est la sélection pour l'Espagne à l'Eurovision, qui aura lieu en décembre. On sait qu'il y aura 20 chansons. On sait qu'il y aura une sélection internet avec des chansons de tout le monde qui peut envoyer, des auteurs connus. Les ex-participants vont participer dans ces sélections. Donc, c'est pour la première fois où tous les participants de Pelafin Tour participent à la finale nationale. Pour moi, c'est beaucoup mieux que jamais, donc je ne peux pas me plaindre. Mais Amaya et Alfred, c'est la canción. Bah, un peu triste, mais j'ai parlé beaucoup, désolé, c'était ma mon pays, Ethan.
Alors, parce que ça me fait plaisir de faire plaisir à Aitor, parce que j'ai déjà commencé un peu à boire, je vais dire quelle affreuse injustice qu'ont vécu cette année les Espagnols. Voilà. Ceci dit, ma mère a beaucoup aimé.
Mais oui.
On pas, s'en fiche, mais je vous le dis quand même.
Corruption.
Ah, mon neveu, il faut le dire, mon neveu, il n'a pas voulu les... Enfin, par rapport aux chansons de l'Eurovision qu'il écoute, l'Espagne, il m'a dit, non, j'aime pas. Mon neveu, il n'aime pas l'Espagne. Imaginez-vous, hein.
Non, mais c'est ni fait ni à faire. Moi, franchement, on aurait été représenté par ça. À l'Eurovision, j'aurais eu honte. Hein. non, c'est vrai que j'ai envie de dire que l'Espagne souffre du même défaut que la France, c'est-à-dire qu'elle est encensée par les Eurofans parce que les gens ont envie d'aller en Espagne. Ils ont envie d'aller, bon, plus à Barcelone maintenant, mais à Madrid ou à Séville. Ils ont envie de passer un été au soleil, enfin un printemps au soleil. Et voilà, mais cette chanson, c'était un problème dès le début. Quand j'ai vu les Oui Oui Blocs qui se pâmaient devant ce duo, je me disais, il y a un problème quand même. Il y a un problème chez les Eurofans qui n'ont pas l'air de comprendre que en 2019, le public ne peut pas adhérer à ça. Alors, Opération Triunfo, on attend quand même que, avec de jeunes artistes prometteurs, on nous mette de bonnes chansons qui vont être appréciées par l'ensemble du public européen. Donc, j'espère que les auteurs-compositeurs espagnols vont se sortir les doigts du cul et qu'ils vont un petit peu bosser leur sujet et nous proposer une bonne chanson pour 2019. Parce que moi aussi, j'ai envie d'aller en Espagne à l'Eurovision et j'ai envie de faire plaisir à Aitor.
Oh. Mais qu'est-ce qui te prend, Farouk ? C'est moi, normalement, qui gueule, qui dit des gros mots et des choses comme ça. Non, mais bon. Ah, oh, tu vas arrêter, oui. Bon, je vais vous dévoiler un peu les coulisses de Eurovision 69. Hein. Donc, vous savez très bien que c'est Hitor qui nous envoie les fichiers. Les quatre premières, il a classé les chansons par des catégories. Les premières chansons, les quatre premières, c'était les tops du télévote et les tops du jury. Les secondes, la France et l'Italie, c'était la France et les chansons à texte. Là, nous passons dans la catégorie classement décevant. Non, Hector, ce n'est pas un classement décevant.
Pour moi, oui. C'est la grande injustice de 2018, messieurs, dames. Écoutez-le.
J'avais dit, bon, moi j'ai jamais aimé la chanson, je te l'ai dit, et en plus je trouve que la mise en scène et
si.
Les costumes.
Tu sais, tu étais le seul qui avait moyennement apprécié, c'était les autres non, mais toi si, au moins toi, ouais. Olivier, ne me quitte pas maintenant.
C'était mauvais, non, c'était un choix par défaut dans tout ce qui est proposé pour envoyer, c'était un choix par défaut. C'était pas celle que je préférais.
Olivier, c'est vrai que Ethan qui a critiqué le pantalon d'Autrichien, il aurait quand même pu parler du costume de l'Espagnol. Hein.
Ah ouais, et puis ah, l'autre, sa robe de mèche.
Moi, j'aimais bien le Bordeaux. Si, mais c'est le Bordeaux qu'il a gardé.
Oui, il a gardé le Bordeaux, non, avec les trucs dorés du côté. Oui.
Non, mais ça, elle, ils ont fait le mauvais choix. Pendant les répétitions, on a vu une meilleure tenue pour elle. Mais lui, ils ont fait le meilleur choix, hein, pour moi.
Ouais.
Oh, bah, le truc qu'elle avait au Red Carpet, c'était pas mal non plus. Hein.
Je me souviens pas. Ah ben j'y étais pas, je suis bête, je peux pas me souvenir.
C'est les rideaux de sa grand-mère qu'elle a racheté.
Quelle horreur. Enfin bon, bref, voilà. Classement décevant, non. Non, non.
Ok. Bon, on a parlé autant de, pour l'Espagne que pour la France, c'est juste, enfin presque. Donc on peut passer sinon. Bon, sachez qu'il y aura un podcast Espagne, je le promets, cette année il y aura un podcast pour les présélections espagnoles avec les chansons, une vingtaine ou une dizaine, mais on en fera en janvier avant tout le monde, les Espagnols, pour se tromper à nouveau avec la chanson, parce qu'il y aura les meilleurs chanteurs du monde avec la chanson comme d'habitude. On verra, ou peut-être pas. Bon, mais on passe à une autre. Classement décevant, on découvre aux musiques. C'est qui parle alors?
C'est moi, et alors je suis désolé, j'ai pas beaucoup préparé ce podcast, je viens de découvrir que c'est moi qui présentais la Suisse. chanson que j'avais pas souhaité commenter puisque c'est comme ça
mais
qu'on
si.
A réparti.
Mais j'étais avec toi, Ethan, et je me souviens des.
Alors, je l'avais pas mis dans la préparation de notre podcast, mais c'est vrai que pour moi, c'est une des meilleures surprises des répétitions. On s'attendait pas à grand chose de la Suisse. Moi, je la mettais plutôt haute dans mon classement. Mais on ne s'attendait pas à grand-chose de leur part, soyons honnêtes. Et à la première répétition, on a tous quand même fait « waouh ». Ce n'était pas le plus gros « waouh » de la quinzaine, mais on était assez bluffés par ce qu'ils nous ont proposé, et notamment par la prestation de la nana, la sœur, je ne sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié. Elle était juste bluffante quand même, elle. Oui, c'est une des très bonnes surprises de ce concours. Et bon, ben, malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est assez injuste.
C'était une bonne prestation, il n'y a rien à dire, mais on savait que ce serait compliqué pour la Suisse dès le début. Et elle n'a pas eu de chance, la Suisse. Elle s'est trouvée dans la mauvaise demi-finale, la première, celle qui est quand même la meilleure des deux. Si vous regardez le classement moyen des qualifiés des deux demi-finales dans la finale, les qualifiés de la première demi-finale sont en moyenne classés à la 9e,8e place et ceux de la deuxième demi sont à la 16e,1 place. Ça veut tout dire. Je pense que le hasard a mal fait les choses et qu'il a mis les chansons qui avaient le meilleur potentiel dans la première demi. Et donc, pour la Suisse, il n'y avait pratiquement aucune chance. Hein. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé les voir en finale. Ils l'auraient mérité.
Ben, moi aussi, j'étais pas fan de la chanson à la sortie de la sélection nationale. Je trouvais ça pas inintéressant, mais enfin, j'arrivais pas à trouver le truc qui accrochait. Et la prestation vraiment m'a bluffé. Je trouvais que ça, voilà, ça méritait aussi de passer. Les jurys auraient fait passer la chanson, et c'est le public qui, c'est à cause du public que ça passe pas au final.
Ouais. Mais quelque part, je pense que c'est compréhensible parce que finalement, le jury l'a placé 10e de la demi-finale la plus difficile. C'est pour être 10e dans cette demi-finale-là, c'était compliqué, donc c'est presque bien, on va dire. Par contre, 15e de télévote, ça explique est-ce qu'on pensait, nous, que c'était une chanson qui, à la base, bah, sans intérêt, quand on avait la finale nationale, nous, dans notre podcast, elle n'avait même pas gagné, non? Enfin, peut-être. Il m'a souvenu que Farouk avait beaucoup aimé, mais je ne sais pas s'il avait gagné notre podcast suisse. Et maintenant on se reconnaît qu'elle était bien parce que voilà, parce qu'elle a bien fait, mais c'était pas la chanson. Du coup, ben, elle a fini 13e dans la demi-finale la plus difficile. C'est un peu compréhensible presque, non? Mais bon, si elle était passée en finale, je pense qu'on aurait été content et on aurait dit, ben, c'est mérité, quoi. C'est clair, hein. Un autre classement décevant, mais je pense que là pour le coup, on coïncide Olivier et peut-être Farouk aussi et moi. On va écouter en musique, moi aussi. On va voir.
Et ben oui, on continue. Ben oui, c'est ma très grosse déception à moi. C'est la Belgique, Sénèque avec A Matter of Time. Alors, c'est ma chanson préférée de ce podcast, de ce concours, parce qu'il y a plein de choses qui plaisent dedans. C'est le style que j'aime, de musique que j'aime. C'est écrit par le Calier qui est le compositeur d'un groupe que j'adore, un groupe belge que j'adore, qui est un de mes groupes préférés. Donc, il y avait tout. La première image avec voilà, les yeux à travers les doigts traversés, très beau. Et après, ben, il ne se passe plus rien. Donc, c'est une déception pour moi. Mais par contre, ça me choque pas qu'elle ne soit pas passée au niveau du package. Parce que le package n'y est pas du tout. La robe est. Je trouve pas la robe jolie. La mise en scène, il n'y en a pas. Et il ne se passait rien. J'adore la chanson, mais il ne se passait rien sur la scène. En tout cas, devant la télé, bon, il ne s'est rien passé.
Et moi, c'était comment pour toi, un de mes favoris, c'était mon top 2. Et du coup, j'avais tellement d'espoir, comme la dernière année pour la Belgique, que j'étais vraiment hyper déçu. Mais par contre, j'avoue que pour moi, elle aurait dû passer en finale. Pour moi, c'est une déception. Elle était pire qu'on ne pensait. Je ne sais pas, elle faisait un petit peu peur. La mise en scène, c'est ce qu'on attendait. Mais quand même, je pense que c'est une injustice. Parce que la chanson, elle est si bien. C'est une des meilleures chansons du concours, sans doute. Il n'a pas été mal interprété finalement, parce que même si les répétitions étaient un peu faibles, là c'était bien. Pour moi, la 9e place du jury, ça peut se comprendre parce qu'il y avait des meilleurs vocalement, mais la chanson, elle était là quoi. Et les télévotes 16e, désolé les Européens, vous savez les goûts. Je vais pas dire où vous l'avez, mais vraiment, moi j'ai voté pour la musique si je ne me trompe pas hein, ces jours-là.
Mais oui, non, mais voilà, le jury parfois vote vraiment pour les musiques. Mais à la télé, il ne se passait rien. C'est les gens qui sont devant la télé qui votent. Et ça, il n'y avait rien qui se passait. Hein. Rien de transcendé.
Je vais reprendre la phrase. Pardon.
Non, vas-y, vas-y.
Je vais reprendre ta phrase type, Olivier. La tenue, non, non, non. Perfect. Le maquillage, non, non. Et c'est seulement deux noms parce qu'ils l'ont corrigé un peu au fil des répétitions. La première fois, c'était juste affreux. Et la mise en espace, on va dire, non.
Mais t'oublies les burks.
Ça fait 6 noms. Et moi, je comprends son élimination.
T'oublies le burk à la fin.
Mais c'est Eurovision sans contest.
Pardon. Non, non, non. Burk.
Non, mais c'est le concours de la chanson quand même. La chanson, c'est une des meilleures. On peut pas.
C'est un concours de show télé.
Mais quand il y a
la chanson est importante.
Mais il y a des fois que la chanson suffit. La chanson suffit pour tout peut fermer les yeux et c'est tellement bien la chanson que j'arrive pas à comprendre vraiment. J'arrive pas. C'est comme la Belgique l'année d'avant. Pareil, c'était la chanson des meilleurs du concours. Bah et l'interprétation de la nana, je me souviens plus des Soleil Blanche. Et bon, après il s'est amélioré, mais au début il était hyper nerveuse tout ça. Et bah mais la chanson était là. Oui, mais la chanson était là. C'est la chanson qui a fait aussi, je pense.
C'est pas un style musical qui est le plus fédérateur.
Non, bon, c'est vrai.
Okay. Farouk, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Je pense qu'effectivement, elle avait un petit bijou comme chanson, elle a pas su le mettre en valeur. C'est vrai que c'est pas une chanson grand public, hein. Overphonic, c'est quand même pas un groupe qui est très connu, mondialement connu, quoi. C'est un groupe qui a un gros succès d'estime. Mais c'est pas un groupe qui a beaucoup de fans, on va dire. Mais elle, c'est vrai qu'elle est pas télégénique et puis ils ont rien réussi à mettre en valeur, quoi. Et c'est vraiment dommage, c'est un vrai gâchis parce que cette chanson aurait dû passer en finale. Et ils nous l'ont gâché.
Bon, bah, on a une chanson qui un peu, il y a eu les mêmes problèmes. On est couvre en musique, on va voir.
Ben oui, parce que si la Belge Senec nous ennuyait, eh ben la Lettonne d'origine brésilienne Laura Terozzo, elle en faisait trop. Elle en a fait des tonnes à l'écran et résultat, elle a réussi à se mettre le public à dos. Si les jurys ont été plutôt sympas en l'en mettant sixième, le public, lui, n'a pas du tout adhéré à cette chanson un petit peu James Bondienne. Et il l'a mis que 15e avec 14 petits points dans la deuxième demi-finale. C'est un vrai ratage auprès du public que j'ai du mal à m'expliquer, mais c'est vrai qu'elle en faisait des tonnes. Et pourtant, elle a une gueule. Autant Sénèque, elle n'est pas très gâtée par la nature, autant Laura, elle a une bonne gueule. Physiquement, elle est bien faite, alors que Sénèque, elle est plutôt maigre comme un clou. J'ai eu du mal à comprendre que le public, au moins, n'est pas mis des points pour le look et le physique. Bon, c'est bizarre.
Ah oui, c'est à moi. Eh ben, oui, peut-être. Peut-être que c'est vrai ce que tu dis, Farouk. Mais en fait, je m'en souviens pas. Devant la télé. Non, si, je me souviens que devant la télé, c'est une chanson que j'aimais bien, justement, un petit peu. Mais bah, là aussi, c'est pas ça. Ça m'a pas convaincu. J'ai pas trouvé ça. C'est pas une prestation dont je me suis souvenu à la fin de cette seconde demi-finale. Et en plus, vous savez quoi, j'étais arrivé en retard, donc j'en ai vu que la moitié de cette seconde demi-finale. Et voilà, et elle est dans cette seconde demi-moitié, dans cette seconde partie que j'ai vue. Et ben à la fin, quand il fallait faire un classement, que je pouvais pas vraiment faire parce qu'avec la moitié des chansons, et ben ça ne transcendait pas. Je pouvais pas la mettre dans mon classement.
Arrêtez de faire autant de bruit, hein. Vous n'êtes pas Fanny Girl comme elle. Et Laura Rizzotto, mais non, j'entends des bruits des papiers, c'est parce que c'est. Et non, mais en fait, je vois que c'est exactement le même cas qu'avec la Suisse et qu'avec la Belgique. C'est encore une chanson, voilà, qui a été appréciée par les jurys, détestée par les télévotes. Mais voilà, c'est ça. Il y a une qualité qu'on ne peut pas nier. La chanson, elle est bien. Elle interprète assez pas mal. Et la chanson, si tu l'écoutes en MP3 tranquillement, en hiver, quand il fait froid à l'extérieur, tu, comme ça, tu l'écoutes et tu dis, mais c'est magnifique. Et j'avais compris qu'il gagnait la sélection. Mais à l'Eurovision, devant toutes les autres chansons, bah, c'est vrai que ça peut être un peu décevant, Tétan.
Même en hiver, quand il fait froid à l'extérieur, ça me réchauffe pas. Hein. Moi, c'était sans intérêt pour moi avant, c'est sans intérêt pour moi après.
Bon, on passe à la session suivante alors, avec la musique.
Vous entendez Alexei Trukbidule qui chante Forever, la chanson du Bélarus. C'est sans trop d'intérêt, sauf que il faut absolument garder la vidéo du Bélarus 2018. Il faudra la montrer à tous les nouveaux chefs de délégation. Je vous rappelle que la France en a un nouveau cette année.
Oui.
Enfin, bon, il était un peu déjà dans l'équipe avant.
Oui.
Complètement dans l'équipe avant. Donc, il a vu le Bélarus. Mais pour ceux à venir, il faudra leur montrer ça. Parce que c'est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire à l'Eurovision. Vraiment, voilà, je peux pas dire plus, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire.
Oui,
j'allais dire la même chose qu'Ethan, bon déjà, ils ont changé toute la première partie de la chanson entre le moment où il a été sélectionné et ce qu'ils ont envoyé à Eurovision, c'était déjà pas une bonne idée. Et puis alors cette prestation, mon dieu, c'est ni fait ni à faire. Et donc évidemment que il courait tout droit à l'élimination. Et en plus, n'oublions pas que c'est la chef de délégation biélorusse qui est censée faire partie du jury français pour Destination Eurovision. Hein. Donc, faut peut-être la changer, elle aussi, là.
Olga, ah oui.
Voilà.
Moi, je me suis marré pendant 3 minutes.
Oh.
Et avec un grand fou rire à la fin.
Ah non, mais la première répétition... Aitor, tu fais haut, mais la première répétition dans le centre de presse, tout le monde rigolait.
Ah non, moi, j'ai pleuré, hein. Alors là, clairement, ma chanson favorite, Alexiev, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Non, mais allô, quoi? Non, mais c'est impossible. La meilleure chanson de l'Eurovision. La meilleure interprétation. Non, je rigole. Mais la mise en scène, qu'est-ce que vous avez fait?
C'est pas l'Espagne.
C'est vrai. Non, mais ils avaient une chanson qui était très bien. Et comme dit Farouk, on a échangé l'instrumentation. On l'a un peu, pour moi, il était bien comme il était. On a essayé peut-être qu'il soit moins linéaire, ou moins linéal, je ne sais pas comment dire en français. Ok, ça on peut comprendre. Mais elle a mal chanté. Et surtout, la mise en scène. La mise en scène, c'était ridicule. Personne ne pouvait rester sérieux envers ça. Enfin, en regardant ça. Et c'est ça qui a fait qu'il ne passe pas en finale. Parce que la chanson, elle était suffisamment bonne pour passer. Hein. Même avec son interprétation vocale et son tremblement de terre quand il chantait. Non, mais sérieux, quoi. Ethan. Forever. Ah, t'as déjà parlé.
J'ai déjà parlé, c'est moi qui ai présenté.
Bah, on écoute la finale, la fin, et on passe à la meilleure chanson de l'Eurovision.
Non, je vais reprendre la parole parce que j'ai évoqué le fait qu'on avait un nouveau chef de délégation et on va on s'est dit qu'on allait faire un peu moins de podcasts cette année parce qu'on a besoin de souffler un peu tous. Ouais. Du coup, c'est l'occasion de dire merci à Eduardo Grassi. Moi, j'ai pas d'affinité particulière avec lui, mais il a quand même fait revivre un peu le concours en France. C'est dû au passage sur France 2 et à lui. Je pense que les deux sont à féliciter pour l'enthousiasme qu'il y a autour du concours. Et bonne chance à Steven. Moi, je suis très content que ce soit lui. Je pense qu'il a assumé un rôle important depuis longtemps, enfin depuis le passage sur France 2 sur le concours, et je suis très content, que ce soit lui qui en prenne les rênes officiellement.
Ok.
Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter.
Non, mais c'est très bien. Mais je me suis dit pourquoi écouter la Bélarus alors que tu parlais pas de Bélarus. Je suis passé directement à la chanson suivante. Écoutez quelques secondes. Out. C'était quoi les groupes de chansons, Olivier, là, dont on parle, là? C'était les, et là, c'est la mise en scène, les pires et les meilleurs. Bon, c'est pas les meilleurs. C'est, à votre avis, c'est quoi, une des meilleures ou des pires mises en scène de l'Eurovision cette année?
C'est déjà une des pires chansons, alors.
Oui. Elle a le package.
Elle avait les packages. Bon, moi, j'avoue que pour moi, le côté robot et tout ça, ça m'a fait rire, et surtout dans les répétitions, parce que les messages qu'affichaient les robots ont changé pendant les répétitions et tout. Et c'était un peu le suspense de ce qu'on allait écouter vraiment dans la finale à la télé, quoi. Donc c'était les côtés sympathiques, ça on peut pas les nier. À chaque fois on a beaucoup rigolé avec, mais quand on écoute le live de Jessica, Jennifer finalement, elle sentait pas si mal que ça, hein. Je crois que c'est une des compositeurs de la chanson d'ailleurs. Mais Jessica, c'est catastrophique, mais elle a pas fait une bonne note. Parce que la chanson, Heroes, version 2, elle aurait pu passer en finale s'il avait été bien interprété, sérieux, hein. Moi je pense. Ethan?
Alors, moi j'ai rien à dire sur son marin.
Mais c'est donc si vous voulez.
On s'en fiche un peu.
Ouais. Oh.
Par contre, ils nous ont fait rire à chaque répétition, puisque les panneaux que vous avez vus, là, les robots tenaient des panneaux, je me souviens même plus ce qu'ils disaient pour la finale,
ouais.
Mais ils les ont changés à chaque répétition,
ouais.
Et c'était à chaque fois très drôle ce qu'ils nous racontaient sur ces panneaux. Je me souviens du Justice for Valentina, excusez-moi, j'ai bu, alors mon accent anglais doit être terrible. En tout cas, merci à eux pour ça. Ils nous ont fait supporter les X répétitions de 43 chansons pendant la quinzaine Eurovision. Parce que si vous voyez, enfin, si la plupart d'entre nous voyons 3 shows télé, nous on se tape 15 jours de 43 chansons fois 3 répétitions fois 4 passages. Et parfois c'est long. Eux nous ont fait rire à chaque fois.
Farouk, tu veux parler ou Olivier? Farouk? Non?
Normalement, c'est Farouk qui parle après Ethan. Bah, je vais parler et je n'ai rien à dire.
Ok. Bah, est-ce que vous voulez écouter la mini-finale?
Bah, moi,
ah. Pardon, dis Farouk, on ne t'entendait pas?
Non, je vous dis ça comme ça. Bah, ce que je voulais dire, c'est que la meilleure des mises en scène n'aurait pas pu sauver cette horrible chanson. Il n'y avait rien à sauver. C'était. Même le plus génial des metteurs en scène pouvait rien faire, c'était un cas désespéré.
Ok, très bien. Excusez-nous, parce que je sais pas ce que tu as parlé tout à l'heure, on t'a pas entendu, mais on profite parce qu'on m'a découvert en musique la chanson suivante, que c'est toi qui la présente, si je ne me trompe pas. Hein. Écoute.
C'est la magie de l'Eurovision. Quand on a une chanson promise au limbe des demi-finales dont on n'attend pas grand-chose et qui, grâce à une mise en scène surprenante, étonnante, joyeuse, parvient à nous faire rire, eh ben, c'est ça l'Eurovision. C'est ce qu'on aime. Donc, bravo à la délégation moldave qui a trouvé l'idée géniale, nous proposer 3 minutes de théâtre de boulevard. C'était fun, c'était drôle. Et finalement, on s'est pris au jeu et on a dansé avec eux. Et voilà, la Moldavie termine 10e. Et fait rare quand même, elle a réussi à convaincre à la fois le jury et le télévote, puisque globalement, les Moldaves, avec leur 10e place au global, sont 8e au télévote et 10e chez les jurys. Bravo les Moldaves, bravo Philippe Kirkorov.
Une chanson promise au Limbe de l'Eurovision, malheureusement sauvée par une mise en scène, je vais dire oui, intéressante, c'était drôle. Voilà, malheureusement. Enfin bref, allez, passons pour moi.
Ouais. Je vais pas faire ma blague des Doré, Domire, là, tout ça.
Ça y est, tu viens d'affaire.
Merde, je l'ai fait, ouais. C'était parce que la chanson, je l'aimais tellement pas que ça m'a énervé, je l'avoue. Ça m'énervait qu'il mette une mise en scène. Parce que c'est vrai qu'elle était drôle, tu pouvais pas dire que c'était de la merde et qu'il faut pas passer parce que rien que parce qu'il a fait rire et attirer l'attention des gens, bah, elle devait passer. Mais bon, moi, franchement, je pense que son classement, il est un peu exagéré. Je suis surpris parce que j'ai des amis très hérophobes à Paris. Enfin, il y a des hérophanes aussi, comme vous, mais je veux dire, il y en a qui sont hérophobes vraiment. Et qui m'ont dit, ah non, mais on a regardé l'Eurovision, on adorait la Moldavie. Il y en a deux qui m'ont dit ça, j'étais avec la rage à l'intérieur. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Et en plus, ils aiment les plus grands boosts de l'Eurovision. Et c'est à cause de la mission, c'est clair. Ethan.
Ça m'ennuie beaucoup de dire du bien d'une prestation russo-moldave, mais je suis totalement d'accord avec Farouk. Et pour vous raconter un peu les coulisses, pendant les répétitions, quelque part, on est tous un peu blasés, même sur la première répétition finalement, parce qu'on connaît les chansons par cœur et beaucoup sont sans surprise. Donc il y en a assez peu qui réussissent à faire taire complètement la salle de presse. Et la Moldavie cette année a été une des chansons. Alors la salle de presse ne s'est pas tue, la salle de presse a ri, mais on était complètement avec eux. Et il y a eu Chypre et la Moldavie cette année, où la salle s'est arrêtée pendant un moment, où on a tous fait « Waouh, qu'est-ce qu'on voit là ?» Voilà, ils ont réussi à faire d'une chanson, effectivement, sans trop d'intérêt, un moment assez inoubliable pour tous, je pense, en fait, pour tous les Eurofans, tout du moins.
Ok, on peut passer à la chanson suivante, et merci, parce que j'en pouvais plus. On découvre musique.
Voilà, c'est un peu long à démarrer là. Et elle crie en plus. C'est donc la Bulgarie dont on va parler maintenant. Dans les pires ou meilleures mises en scène. Alors, ce que je disais... alors, mes petits camarades... Alors, c'est vrai que c'est une chanson aussi un peu comme la Belgique qui n'est pas forcément... les plus accessibles hein, et les plus grands publics au niveau de la musique. Après, je sais que mes petits camarades, quand ils étaient sur place, disaient, qu'est-ce que c'est que cette mise en scène horrible, qu'est-ce qui se passe, rien qui se passe. Sauf que là, effectivement,
pas du tout, tu dis n'importe quoi, non, tes petits camarades, ils disent pas ça.
Non.
Mon meeting, pardon.
Oui, tu parleras tout à l'heure. Son tour viendra.
Excusez-moi.
Olivier.
J'ai entendu des commentaires un peu bizarroïdes en me disant que ça rendait rien quand vous étiez dans la salle. Sauf que c'était une mise en scène vraiment créée pour la télé, pour les gens qui vont voter devant leur écran. Et c'était juste sublime. Moi, c'était donc mon 10 sur les 43 chansons. C'était mon 10 points. Qui se bataillait avec mon 12 de la Belgique. J'adore cette chanson et j'ai trouvé la mise en scène sublime. C'était vraiment très très beau.
Bon. Moi, c'est une chanson au contraire que pour la France, que Ethan a réussi à me faire, me convaincre un peu. La Bulgarie, j'ai jamais cru à elle. Jamais, jamais. Depuis la première écoute, j'ai dit non. Enfin, c'est vrai qu'il y a une qualité derrière aussi, pareil. Tu peux pas dire que c'est une mauvaise chanson. Et je me disais, en plus, j'avais un peu je me demandais qu'est-ce que ça donnerait en live. Et malheureusement, c'est mal de dire ça, mais les chanteurs, ils sont pas très attractifs ça donne pas envie, quoi, quand tu le regardes à l'écran. Et la chanteuse, qui n'est pas moche, avec sa perruque, franchement, il a détruit son, moi, personnellement, pour moi, c'était un cirque, comme on dit en espagnol. Un circo. Et, du coup, même si la mise en scène de Sacha Jean-Baptiste, dont tu nous parleras sans doute, elle a changé au fur et à mesure, parce que Olivier, au début, c'était pas ça d'ailleurs, ça a amélioré au fur et à mesure. À la fin, c'est vrai qu'il avait la gueule, on va dire, mais avec leur gueule, Moi, et la chanson, non, j'arrivais pas à y croire. Et donc, leur classement, pour le coup, pour moi, c'était normal. Ethan.
Alors, je vais faire un mix de vos commentaires quelque part. Pour moi, c'est une leçon de mise en image, comme souvent, par Sacha Jean-Baptiste. C'est la reine de l'Eurovision, la reine du Melody Festivalen. Moi, j'ai pris une claque à la première répétition, sur la répétition de la Bulgarie. J'aime pas spécialement la chanson. Moi, j'ai jamais été autant enthousiaste que beaucoup d'Eurofans sur ce titre. Je trouve en plus que le teasing que font les Bulgares depuis 2 ans, ils ont dit qu'ils allaient y mettre fin, est vraiment naze. Voilà, c'était un groupe sans intérêt. Comme dit Aitor, ils sont moches, tous, ou presque. La chanson m'intéresse pas, et pourtant, elle a réussi à créer un événement visuel, quoi. Pendant 3 minutes, je trouve ça captivant. Elle crée des flashs, des trucs vraiment très forts visuellement, je trouve. C'est vraiment la reine du concours pour moi cette année. C'est Sacha Jean-Baptiste. C'est elle la vraie gagnante, puisqu'elle a également mis en scène une chanson dont je me souviens plus du fichier, mais je pense qu'on en parlera à Chypre. Voilà. C'est elle la vraie gagnante cette année. Sur la Bulgarie, elle a fait un truc fabuleux, je trouve, au service de pas grand-chose. Donc, ils ont le classement qu'ils ont.
Bien, moi, j'ai beaucoup aimé la Bulgarie. J'ai bien aimé la prestation télé. Je trouve que c'était effectivement efficace. Après, je dirais que le défaut, c'est le groupe. C'est un groupe fait de briques et de brocs. Ça se sent, ça se ressent, ça se voit. La chanteuse a pas été bien choisie, la perruque effectivement est ridicule. Les groupes ne marchent pas très bien en plus à l'Eurovision, ça aide pas. Je pense qu'il aurait fallu peut-être proposer cette chanson qui pour moi est un vrai bijou. C'est ma préférée de cette année, je redis. Il aurait fallu proposer ça à un chanteur, avec éventuellement des choristes derrière pour accompagner et faire un truc. Mais là, il n'y en a aucun qui émerge, qui sort du lot finalement. Ils sont tous finalement très ternes. Et c'est peut-être ça qui a pas joué. En plus, la chanson est quand même très noire. Hein, donc ça aide pas. Mais pour moi, c'est la meilleure chanson de cette année.
Donc si c'était la meilleure pour toi, c'était une chanson qui était bonne, non? C'était bonne. Les titres de la chanson, je vous le rappelle, c'était Bones, d'Equinox.
Et c'est reparti pour les Aitorades, vous en avez encore pour une saison au moins.
Ouais, bienvenue, la saison 7 a commencé.
On avait oublié.
Bon, et on va finir de parler de la Bulgarie parce que sinon les podcasts vont durer toute une éternité. Et même si la chanson était Bones, on écoute les dernières secondes de la chanson et on passe à la chanson suivante.
Et on passe donc à la catégorie des bonnes performances. Là, on va vous parler de 4 chansons qui, pour nous, sont des bonnes performances. Et on commence tout de suite donc avec l'Albanie. Eugène, te boucherai pas mal. Je me souviens que je me souviens que quand on a parlé de Eugène, pas bouge pas, bouge pas, pendant nos podcasts l'année dernière, c'était plutôt mitigé, hein, on aimait, on n'aimait pas, c'était assez moyen, on va dire. Moi, j'aimais beaucoup. Et, quand j'ai vu cette première demi-finale, donc moi, j'étais devant mon écran, à la fin, quand il fallait voter, il y a 2 performances dont je me suis souvenu, et l'Albanie en fait partie. Voilà, c'est vraiment celles qui m'ont marqué réellement. Elles sont 2 et on en parlera d'une après. L'Albanie fait partie. Je trouvais que il y avait rien de transcendant. Pas de feu d'artifice, pas de tenue moule la chicha. Voilà. Il n'y avait pas de florilège, pas d'incrustation. Il n'y avait que lui qui était là. Ça suffisait. Suffisait à la chanson et c'était une très très bonne performance dont on se souvient et je pense que c'est pour ça aussi que c'est passé.
Et bon, pour Olivier, la chanson c'est pas mal, mais la chanson, je te rassure, Olivier, la chanson s'appelle Mal. Hein. Ça c'est juste la blague. Et sinon, j'avoue que c'était pas mal parce que. N'importe quoi. Parce que c'est vrai que l'interprétation live, Hector, c'était impressionnante.
Hector, oui. il ne faut jamais rire à ses propres blagues.
Mais si, parce que c'est très bien. Sinon, si moi, j'y crois pas, qui c'est qui va y croire? Et il faut.
Pas grand monde, c'est vrai.
C'est peut-être le moment de te remettre en question.
Non, je ne me mets pas en question. Et Eugène Bouchepa, il a fini 7e du jury dans la finale à 26 après avoir éliminé autant jusqu'à 43. Enfin, éliminé, je ne sais pas combien, jusqu'à 43. Et l'interprétation vocale était là, et on ne peut pas dire qu'il a mal chanté. Du coup, pour une fois, les jurys, à mon avis, ils ont fait leur rôle de voter à la qualité. Parce que la qualité était là. Là, au moins, ils ont été bien. Bon, comme tout à l'heure, quand on a parlé de la Lettonie et tout ça, hein, la Belgique et tout ça. J'étais les votes à nouveau. Mais bon, pour le coup, comme j'ai la chanson, je l'ai trouvée moyenne, je comprends qu'elle est finie un petit peu plus bas. Sinon, et l'anecdote, c'est que cette année, la Chine retransmettait l'Eurovision. Et cette chanson-là, elle a été boycottée par la télé parce qu'il portait des tatous, messieurs, dames. Attention. Du coup, les Chinois, ils n'ont pas pu profiter de cette magnifique voix parce qu'ils portaient des tatous. C'est l'anecdote. Ethan.
Je te rejoins sur le rôle important du jury sur une chanson comme ça. Pas parce qu'il méritait de gagner, ou pour moi c'est loin d'être une des meilleures, mais c'est quand même plus haut dans le classement que la plupart des chansons. S'il n'y a pas de jury, c'est la préférée de personne, ce truc, et donc il finit dernier. Or, ça ne mérite pas, loin de là, de finir dernier. C'est pour ça que c'est important d'avoir un jury qui lui vote au minimum pour 10 chansons. Parce que ça rééquilibre un peu les choses. Une chanson qui, pour tout le monde, est troisième, quatrième, ne finit pas dernier si on a un jury. Voilà. C'est tout ce que j'avais envie de dire.
D'abord, il ne termine pas dernier, parce qu'au télévote...
Non, il est 17e du
jury. Il a quand même récolté une cinquantaine de points, et quand on voit qu'il a un 12 de la Macédoine, un 12 de l'Italie, un 12 de la Grèce.
Mais qui veut rien dire, le 12 italien, il veut rien dire, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Albanais.
Il y a Macédoine.
Et un 10 du Monténégro, vous comprenez que son classement au télévote est un petit peu surévalué. Oui. Après, on peut discuter du jury, et à lui et pour les jurys, moi je suis contre les jurys. Je trouve que les jurys font preuve d'élitisme parfois, et ça typiquement c'est une chanson qui plaît au jury. Mais moi, j'ai des oreilles et je peux ne pas me rendre compte qu'il a fait une belle prestation. Il a bien chanté, il a une belle voix et c'était vraiment très bien fait. Il a fait ce qu'il a pu avec la chanson qu'on lui a donnée, qui n'est pas une grande chanson et qui effectivement ne peut pas plaire à un large public. Mais évidemment, je peux comprendre que les jurys se pâment devant ce truc. Mais c'est sûr qu'il manquait quelque chose à la chanson quand même. La chanson n'était pas aboutie, elle n'était pas finie.
Mais elle n'est pas dans le top 5 du jury non plus. C'est juste que je dis que ça rééquilibre si tu votes pour 10 chansons, ce qui est le cas du jury, par rapport à si tu votes pour... Si les téléspectateurs étaient obligés pour voter... Étaient obligés de voter pour 10 chansons, moi je serais pour l'abandon du jury.
Ouais.
Tant qu'on n'a pas trouvé un système qui permet aux téléspectateurs de voter pour plus d'une chanson... C'est techniquement possible, c'est juste qu'on n'a pas fait le choix.
Bon, je suis d'accord avec
le maintien du jury.
Je suis d'accord avec toi. Pour moi, l'esprit de l'Eurovision, c'est le top 10.
Et je vous interromps un peu parce que j'ai pas envie qu'on parle des heures sur ces chansons-là, mais sur les sujets, on continue, mais peut-être on passe sur la chanson suivante. Si ça vous gêne pas, on parle sur les sujets. Ne vous inquiétez pas, parce que ça m'intéresse.
Oh,
la suivante. Un peu de calme. Non, mais j'étais d'accord avec ce que vous avez dit. Je voulais pas beaucoup couper. C'est juste que sinon, si on parle 3 heures sur la même chanson, les podcasts durera toute la semaine. Et on écoute la Lituanie, qui est aussi, c'est pas moi qui l'a voté, mais je la présente juste pour vous faire plaisir. Et pour moi, c'est une des raisons. Je le dis sérieux, moi, c'est pas pour rigoler. Pour moi, c'est une des raisons pour laquelle l'Espagne a fini si bas. Parce que l'Espagne a chanté numéro 2, qui, bien sûr, vous savez tous que c'était la pire position qu'on pouvait chanter, qu'on lui a donné un cadeau exprès parce qu'on savait qu'on allait rien faire. Et on a mis en position 4 la Lituanie. Et la Lituanie, pour moi, il nous a éclipsé complètement parce que c'était une chanson. Si vous regardez la mise en scène, ça commence pareil. Enfin, je sais pas si vous avez regardé, mais sauf que elle était magique. Alors, j'ai détesté cette chanson. Moi, j'ai une chanson que j'ai jamais envie d'écouter. J'écoute jamais. Mais je peux pas dire qu'il soit mal interprété parce que c'est là. Bon, il a fini 11e du jury et 10e des télévotes. Ils ont été d'accord pour le coup. Mais la chanson, elle est mauvaise. Mais Dieva, elle est magnifique en live. Et c'est pour ça qu'elle est ici dans les bonnes performances. Comme on est en train de parler. Vous voulez en parler, vous, de la Lituanie, Ethan?
Oh, non.
Bah, moi, je veux juste te faire une remarque, Aitor. Ils seraient passés avant l'Espagne, ils auraient quand même éclipsé l'Espagne aussi. Hein.
Si, non, mais quand j'ai dit ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'Espagne, la maître deuxième, on l'a complètement tuée parce que l'Espagne, s'il avait mis dernière comme l'Italie, peut-être il aurait quelques points de plus, mais il n'aurait pas fini, on est d'accord.
Non, c'est le choix de la chanson qui a
Mais une chanson qui est oubliable, que tu. Position de la, enfin, tu la mets dans la position 2 et elle est oubliée davantage, c'est sûr. Mais
moi, je pense que tu inverses le passage de l'Espagne et de la Lituanie, ça change pas grand chose.
Je l'ai déjà dit pour les chansons françaises, quand des Français étaient lucérés de nos ordres de passage, une chanson qui est naze, une chanson du Big Five qui est naze, tu la mets dans des classements naze où tu sais que ça produira rien, quoi. On se coltine le Big Five en finale, quand bien même ils envoient des trucs nuls, la moindre des choses, c'est de leur donner les mauvaises places pour que ça pénalise pas des gens qui ont une chance.
Non, mais
donc, la France en a souffert pendant longtemps parce qu'on envoyait des choses nazes.
Non, mais vous avez pas compris le message aussi.
Ils ont eu la deuxième place.
Non, mais vous avez pas compris le message parce que ce que je veux dire aussi, c'est que la Lituanie, je pense que l'UR l'a mis dans cette position 4, genre, pour dire que c'était de la merde, parce qu'elle a fini 9e de sa demi-finale, donc ils ont dit celle-là, il va finir une des dernières, et ils se sont complètement trompé parce que la Lituanie, elle a fini presque dans les top 10 des jurys et télévotes malgré la position 4. Donc finalement, elle s'est démarquée. Et même une position 4 avec une chanson qui se démarque, bah, tu la tues pas complètement, la preuve. Parce qu'elle a vu presque.
Oui. Aitor, je pense que tu pointes quelque chose, c'est que l'UER utilise ou se sert du classement des demi-finales pour l'ordre de passage. Or, il se trouve que de plus en plus, il y a de grosses différences entre le classement dans les demi-finales et le classement dans la finale. Par exemple, tu prends la Norvège dont on parlera plus tard, ouais, elle est deuxième de sa demi et elle est quinzième en finale.
Oui, mais c'est sujet. Oui. C'est ce sujet, on va en parler tout à l'heure, hein. Si on va parler de ça tout à l'heure.
Parlons clairement. Le plus surprenant, c'est le jury. Le jury, finalement, est incohérent avec lui-même. Il met deuxième une chanson, en demi-finale, et ensuite, quand elle arrive en finale, il la met beaucoup plus bas, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent. Moi, je pense que le problème, c'est les jurys, hein. C'est pas le télévote, hein.
Ok. Est-ce que quelqu'un de vous voulait parler de la Lituanie, Olivier, avant? Parce que sinon, on va parler 3 heures à nouveau sur le même sujet.
Bah, je disais, en fait, moi, la seule chose que je voulais dire, c'est que pour moi, la Lituanie, c'est la même chose que l'Albanie juste avant. C'est les deux seules, l'Albanie et la Lituanie, c'est les deux performances que j'ai retenues à la fin de la première demi-finale en disant, la Lituanie, moi, je l'avais complètement zappée avant, j'aimais pas la chanson avant, mais c'est une des deux seules prestations pour laquelle je voulais vraiment voter et pour laquelle j'ai voté, que je voulais donner des points. Okay. J'ai adoré, c'est ce que j'ai retenu.
Ok. Voilà. Ok, on passe donc à la chanson suivante, parce que là on parlait des bonnes performances, mais on va parler des jurys tout à l'heure, Farouk, c'est pour ça. Donc okay. On écoute la chanson suivante.
Ça marche, c'est pour moi en plus la suivante.
Oui, écoutons la musique. Farouk.
Et voilà, vous voulez des cheveux, de la barbe, des poils, de la testostérone, des mecs virils qui vous font des wouh, comme ça, des gros vikings. Eh ben, c'est le Danemark. Et le Danemark nous a fait une très jolie prestation. Ça se regardait, c'était plutôt agréable à voir et à entendre. Finalement, ça s'est bien passé au niveau du public qui a beaucoup aimé la chanson. Le jury un peu moins, mais on s'en fout les jurys, de toute façon, on n'en attend pas grand chose. Et donc, bravo au Danemark, ils ont bossé leur sujet et finalement, ça fait top 10, c'est parfait.
Bon, c'est très bien. Pendant que tu parlais, désolé, j'ai été ouvrir à mon chat. ce qui m'a permis de ne toujours pas entendre cette chanson en entier, ni même des bouts. Voilà, tu parlais justement de que toi tu voulais éliminer les jurys parce que il fallait que le vote du public. Moi, heureusement qu'il y a le jury, parce que ça aurait donc terminé, s'il n'y avait que le vote du public, ce truc aurait terminé cinquième. Si ça termine cinquième, moi je ne regarde plus l'Eurovision. Je n'ai pas envie de regarder l'Eurovision pour ça, c'est une prestation que je déteste. C'est, voilà, le peu que j'ai vu, je déteste ce truc. C'est vieux, c'est daté, c'est tout ce que je déteste à l'Eurovision. C'est tout ce qu'il y a de vieux, de pire qu'il y a eu. C'est exactement exactement tous les stéréotypes. Quand les gens se moquent de l'Eurovision en disant que c'est ringard, c'est exactement tout ce qu'il y a eu dans la prestation du Danemark. Je déteste ça, j'ai pas aimé. Et ça m'a pas. Je suis parti de ma télé. J'ai été faire autre chose qu'on s'est passé. Le Danemark est passé. Pourtant, en général, j'aime même Danemark, mais là, c'est vraiment la chanson, tout ce qui était autour que j'aimais pas. Bon, bref, hop, pour moi, au suivant.
Ok. Bon, ok. Moi, je comprends. Moi, je trouve pas si naze qu'Olivier, mais je partage avec toi. Là, pour le coup, One Team 5e. Et moi, j'aurais préféré les classements du jury que des télévotes, dans ces cas-là, à nouveau, hein. Comme la plupart, donc, Olivier et moi, je pense qu'on est d'accord souvent sur ça. Et même mon neveu, que je vous parle beaucoup de mon neveu aujourd'hui, parce que ça m'a fait plaisir qu'il soit un petit peu fan maintenant, il m'avait dit, ah non, j'ai pas compris pourquoi le Danemark, il a eu autant de points. Bah voilà, même mon neveu, avec Nevo, il est d'accord avec nous.
Alors, moi, je suis complètement d'accord avec Olivier. Sauf que, il y a un gros mais, c'est Yann qui est le chef de la délégation danoise, qui est également membre du groupe de référence, et il est tout ce que j'ai envie qu'on soit à l'Eurovision, c'est-à-dire que pour lui c'est avant tout une fête, il fait avec ce qu'il a, mais il le fait tellement sérieusement qu'il arrive à gagner, même avec des trucs imparfaits. Donc plus personne n'entendra parler. Il y a un truc, les Danois font les choses sérieusement quand même, tout en prenant l'Eurovision pour une fête. Okay. Et voilà. Rien pour ça, je suis très content qu'il soit là, qu'il fasse ce qu'il fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Juste un petit commentaire avant de passer à la chanson suivante. Et excusez-moi, c'est que j'ai découvert, je ne savais pas qu'il avait gagné la demi-finale de le Danemark. Le télévote de la demi-finale 2 a été gagné par le Danemark. Alors là, pour le coup, my gosh. Vous voulez en dire quelque chose ou on passe à la chanson suivante?
Oui, je veux dire juste, oui, c'est. D'accord, c'est vrai qu'il faut. L'Eurovision, c'est vrai, c'est une fête. Hein, il faut de tout. Hein, j'ai pas envie d'avoir non plus une Eurovision qu'avec des chansons comme la Belgique et la Bulgarie. Hein, ça serait chiant aussi. Hein, voilà, il faut des trucs. Mais je pense que, tu vois, dans les prestations un peu loufoques de fête, même si je suis pas fan de la Moldavie, je préfère voir ça encore actuellement que une prestation du Danemark. Que la mise en scène du Danemark.
Ok. Pour pas que ça fasse long, je vais passer à la chanson suivante. Désolé, mais je vais faire plaisir à Ethan au moins. Ethan, écoutons en musique. Écoutons.
Et un peu qu'on s'en souvient, vous avez entendu les applaudissements d'avant chanson. C'est les applaudissements d'après chanson qu'il aurait fallu entendre pour ouvrir cette section sur le Royaume-Uni, parce que Sorry a été juste magistral. Donc à l'écran, si vous étiez juste derrière votre écran, vous avez pas vu grand chose, pas vu ce qui se passait réellement dans la salle. Un type qui montait sur scène, l'a agrippé par les bras, a fait tomber le micro, des agents de sécurité en 7 secondes, je crois que ça a été assez rapide.
Rapproche-toi des micros, Ethan, excusez-moi, hein, parce que des fois on te.
Le micro est tombé au sol.
Ouais.
Justement, elle a perdu son micro, moi aussi. pendant un moment, il y a eu un truc d'incertitude. Et c'est ça que vous ne voyez pas à l'écran. C'est elle qui, tout d'un coup, se voit le micro par terre. Se dit, merde, c'est mon micro, le ramasse et continue sa prestation. Et alors, moi, c'était ma chanson favorite du concours. Je savais qu'il n'y avait aucune chance pour qu'elle ait un bon classement. Et cet événement a pas augmenté ses chances et j'en étais conscient. Il n'empêche que la voir faire ça, avoir ce cran-là, continuer sa prestation, la voix tremblotante, c'est pour moi le souvenir de cette Eurovision et je pense que ce sera un souvenir vraiment, je veux dire, au-delà de Charlotte en 2008 qui est mon première Eurovision, c'est pour moi le truc le plus marquant que j'ai vécu à l'Eurovision. Ce truc qui s'est passé à ce moment-là, cette nana qui a le courage de ramasser ce micro après ce qui vient de se passer, qui continue sa chanson malgré tout, c'était ultra fort dans la salle. Et malheureusement, c'est pas passé suffisamment à l'écran pour qu'on prenne conscience du potentiel qu'avait Siri. J'espère que la BBC aura le courage, l'audace, enfin j'en sais rien, décidera de la renvoyer au concours parce que j'ai envie de la revoir sur la scène de l'Eurovision. Pour l'instant, ils n'ont annoncé qu'un concours de chansons, donc c'est tout ouvert. Ils peuvent la choisir, elle, comme interprète. J'espère qu'ils le feront. C'est pour moi le moment du concours.
Eh ben, dis donc, bravo à
Siri. Il a fait trois minutes.
Ben oui.
Bravo à Siri pour effectivement ce courage. Moi, je vais juste, je vais tempérer un petit peu ça. Je soupçonne quand même que la BBC qui avait l'opportunité de lui refaire sa prestation, et je pense qu'elle aurait mérité de le refaire, n'a pas saisi l'occasion, et je pense qu'ils ont pensé que ça allait la servir, que les gens allaient voter pour elle à cause de cet incident. Et d'ailleurs, on a vu les bookmakers s'emballer et elle est montée jusqu'à la 6e place des bookmakers en quelques minutes. Fort heureusement, tu l'as dit toi-même en télévision, le public n'a pas réalisé ce qui s'est passé. Et donc, il n'a pas tenu compte de ce paramètre pour voter. Et c'est tant mieux. Et c'est pour vous dire à quel point on peut être facilement manipulé. Par contre, le carton rouge, il est pour la sécurité portugaise. J'avais déjà un carton rouge pour la sécurité ukrainienne qui nous avait fait la misère à Kiev pour finalement laisser un type monter sur scène et montrer son cul. Là, rebelote, la sécurité portugaise a été nulle d'avoir nous avoir emmerdé pendant 15 jours pour laisser ce type monter sur scène et arracher son micro à Siri. Nul, 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 la sécurité.
Eh bien.
En rapide, ce que tu disais, Ethan, ça s'est pas vu à la télé. Enfin, moi, je l'ai vu. Alors, est-ce que c'est parce que je connaissais la chanson que je savais qu'il y avait effectivement un problème? Moi, j'ai des amis effectivement qui ne connaissaient pas la chanson avant, qui ont regardé la maison, ils ont dit « Ah, mais c'est bizarre ce truc ». Ils n'avaient pas compris qu'il y avait eu un incident. Par contre, c'est vrai que la force, l'énergie qu'elle a mis après avoir repris le micro, c'était formidable. Et il me semble que c'est elle qui n'a pas voulu remonter.
Oui, c'est ça.
Ils en ont parlé avec la délégation, mais c'est elle, c'est sûr, oui, qui n'a pas voulu remonter sur scène. Et c'est elle qui n'a pas voulu rechanter parce qu'elle était contente de sa performance.
Exactement.
C'est un peu bizarre.
Oui, exactement. C'est elle qui a choisi de ne pas chanter. C'est pas la BBC. La BBC, on lui a laissé le choix. C'est elle qui a dit non. Donc, mais moi, je m'en fiche de ce que vous allez me critiquer pour ce que je vais dire, mais ça démontre que l'Espagne en 2010, quand on a eu exactement les mêmes problèmes, que nous on a eu une des meilleures positions, enfin une des fois où on a eu le plus de votes au télévote pour l'Espagne les dernières années, c'était à Ropequeñito, et beaucoup de monde nous ont dit ah c'est parce que vous avez dû rechanter parce qu'il y a eu le gars qui est sorti sur scène. Bah non. Parce que si on regarde ce qui s'est passé avec le Royaume-Uni, quand on a vu les bookmakers, les applaudissements du public, tout ça, on aurait pu penser qu'il allait être hyper voté. Et le Royaume-Uni, il a été vraiment oublié par les télévotes. Hein. Il a fini, attendez, je vous l'ai dit, il a fini 20e du télévote avec 25
ouais,
points.
Ouais, mais Aitor, je pense que les gens s'en sont pas rendus compte, hein.
Bah, c'est
en
ça.
Télé, on s'en sort bon, pas.
Bah, la télé, si vous regardez la télé, il dit, les commentateurs, il dit, là, il s'était problème là, du coup, il va rechanter. On l'entend dire dans la télé. Enfin,
c'est grosse, les... Il y a une grosse différence avec Algo Pequeñito, c'est que là, le type est monté sur scène, lui a arraché son micro, alors qu'Algo Pequeñito, le gars était juste derrière et rigolait un petit peu. C'est pas du tout pareil. Hein.
Mais juste... Il était agressé quand même.
Mais justement,
il y avait des bleus à la sortie.
Est-ce que je vais... Non, mais je veux savoir... Non, ce que je veux dire, excuse-moi.
Elle avait des bleus à la sortie.
Oui, elle avait des bleus.
C'est ce que je dis. Ça a été violent.
Importe. Non, mais. Non plus, je croyais pas au potentiel de cette chanson. C'était ma chanson favorite, mais je pensais pas qu'elle allait gagner. Et je suis bien content qu'elle ait pas gagné pour ça. Et Aldo Pequeñito, c'était une des chansons favorites avant le concours. Et ils ont eu un bon classement. Et tant mieux. Finalement,
non, mais
que ces incidents-là soient sans impact sur le classement, tant mieux. Moi, je remets pas ça en cause du tout. Je dis juste qu'elle a été incroyable et que j'aurai le live avec plaisir.
Mais ce qui est marrant, c'est que la chanson que vous écoutez là,
à la fin de la chanson, elle est ultra forte, je trouve.
Désolé. Et j'ai dit que la chanson que vous écoutez là, malheureusement, c'est pas celle de la finale, mais c'est celle de la veille de vendredi, parce que moi j'ai sorti les chansons de YouTube officielles. Et la UR essaye de cacher cet événement-là,
incident. Demander, je l'ai, moi, le MP3.
Ouais, mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas le temps de préparer. Déjà, j'ai passé beaucoup d'heures à préparer. Imaginez même pas les heures que j'ai passé pour préparer ça, messieurs, dames. Et du coup, j'ai dit, les chansons que j'ai, je les trouve, voilà. Parce que celle-là, ils font exprès de mettre la chanson comme ça. Quand tu regardes les chansons une par une, tu vois que c'est là et pas l'autre. Après, tu peux regarder les concours. Moi aussi, j'ai enregistré mon Eurovision chez moi. Mais bon, c'était pour aller plus vite. Et je sais qu'elle a été magnifique. Moi, je pense que c'est une interprétation après le coup, c'était très bien, c'est vrai. Mais la chanson, elle n'était pas à l'auteur. Et du coup, on peut comprendre son classement aussi, non? Et on a parlé beaucoup, messieurs, dames. Ce serait peut-être les podcasts les plus loin de l'histoire, hein.
Je peux rajouter un petit truc,
rapide, s'il te plaît.
Je sais pas pourquoi, parce que vous me voyez pas. Non, mais c'est parce que ça concerne Cerise, mais ça concerne plein d'autres prestations pour cette Eurovision, pour d'autres Eurovisions.
Ouais.
Quand il y a le récapitulatif pour que les gens puissent voter, se souvenir des chansons, parfois ça dessert les chansons. Il y a des moments, je me souviens que pour elle, alors déjà il y a eu l'incident, mais en plus ils ont choisi un extrait où à un moment donné elle a pas chanté près du centre. Donc c'était pas forcément très agréable. Peut-être qu'elle a chanté juste, mais c'est pas très agréable. Et ils ont montré cet extrait. Souvent, sur des chansons, ils montrent l'extrait où un artiste, il fait une fausse note ou il est un peu limite. Donc quand ils récapitulent en 30 secondes ou en 15 secondes, ils mettent 10 secondes de la chanson, les gens, s'ils sont pas souvenus de la totalité de la chanson, ils voient que c'est 10 secondes là et ils voient qu'une fausse note. Ça a été le cas pour Suri là, cette fois-ci.
Ok. On va passer au sujet suivant si ça bouge pas. Oh, quelle belle musique! Qu'est-ce qu'on écoute là, Farouk?
C'est
la Tavalac. Non, mais c'est l'opening act. Opening act. C'était la chanson qui, si je ne me trompe pas, a ouvert la demi-finale 1. Je crois que c'était la demi-finale 1 ou c'était la finale d'ailleurs. Oh là là, désolé, je suis un peu nul. C'était la finale. Parce que, vous savez, nous avons vu ces concours. Donc, on a vu les demi-finales et la finale deux fois. Et à la fin, je ne sais plus dans quel ordre on les a vus. Parce que, désolé. Donc Ana Moura et Marisa, qui sont des chanteuses de fado vraiment magnifiques, hein, et qui, bon, ils sont très bien représentés les Portugal. Et c'était pour parler un petit peu aussi sur le concours, pas seulement des chansons, mais pour le coup là, c'est par rapport à la télé, à la RTP, qui a organisé le concours cette année, parce qu'on pense à la scène, des présentateurs, de la production du programme, les intervalles actes, etc. Donc ça, c'est la opening act de la finale, comme vous voulez dire. Moi, sur tout ça, je voudrais dire, par exemple, on peut le faire dans un ordre, ou je sais pas. Et j'adorais Filomena Cautela, qui était la personne qui a la même gueule que Pastora Soler. En fait, c'est dédicate aux présentatrices, celle qu'on dirait Pastora Soler brune. C'est là.
C'est vrai.
Il était vraiment bien, celle-là. Les autres, ça, des fois, c'était bien, c'était pas bien. Mais celle-là, j'adorais, c'était très drôle. Sinon, la scène, j'ai trouvé une des pires scènes, mais de l'histoire. Enfin, de l'histoire. Mais si tu les mets dans l'époque, dans les moments où tu vis. Il y a les années 70, c'était pire, mais bon, mais c'était peut-être les meilleurs moyens qu'ils avaient à l'époque. Moi, je pense qu'on a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière cette année en Portugal avec la scène. Très, très, très triste. Et voilà, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, Stéphane.
Ben, je suis d'accord avec toi. Philomena a sauvé le truc. C'est pas un hasard si justement après le, on vient de parler de Cerise, l'incident c'est elle qui l'a récupéré. Il n'y avait pas à le récupérer, ça s'est récupéré tout seul. C'est Cerise qui l'a récupéré, pardon. Mais il n'empêche qu'ils l'ont remis elle à l'écran. C'est la seule qui était à la hauteur. La scène c'était ni fin ni affaire. Enfin. La production, bah, c'est ni pire ni meilleur que d'habitude. Mais avec une scène comme ça, qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse ?
Au niveau de la production, c'est les mêmes depuis 10 ans. Donc, j'ai envie de dire que ça ne change pas grand-chose. Effectivement, c'est cette scène qui n'allait pas. Là. Ils ont voulu soi-disant remettre les artistes en avant. Mais en enlevant les visuels, ils ont gardé finalement un fond extrêmement sombre. Et moi qui ai passé une semaine à prendre des photos, je peux vous dire que j'en ai chié de cette ambiance sombre. Et quand on remarque un petit peu les pays qui ont mieux marché, c'est ceux qui ont réussi à s'affranchir justement de ce décor sombre. Ceux qui ont utilisé d'une certaine manière leur propre visuel. Je pense à l'Allemagne, je pense à Israël. Je pense à ceux qui ont mis des incrustations à l'écran pour donner un petit peu plus d'ampleur à l'image qui était d'une terne. Vraiment un concours cheap. Au niveau de la scène, ça n'allait pas et je pense qu'il faut il faut remettre les visuels, il faut remettre de la couleur et de la lumière.
Ouais, je passe mon tour.
Passe ton tour, ok. Et dans ces cas, ça veut dire que Farouk, tu pourrais nous parler sur l'organisation de Lisbonne, sur place, la salle des presses.
L'organisation, c'est simple. Personne n'en garde un bon souvenir. Déjà, cette salle était au bout du monde et nous, on était en plus au bout du monde de la salle, donc c'était terrible pour se rendre au concours tous les matins. Pendant les répétitions, la salle de presse était très mal fichue, petite, serrée. La salle des conférences de presse était excentrée. La bubble des artistes était totalement à l'autre bout, ce qui fait qu'on était totalement isolé des artistes. Je pense qu'on n'a jamais autant été isolé des artistes qu'à Lisbonne. Je ne parle même pas de l'Euroclub Rikiki, Tutti Mini Rikiki. L'Eurovision Village, lui aussi, était un petit peu cheap. On n'avait qu'une envie finalement, c'était de se tirer. Et ce concours est probablement pour moi le pire de ceux que j'ai vécu sur place.
Ok, Olivier, toi tu n'as pas vécu.
J'ai pas vécu là-bas. moi devant ma télé, c'était très bien. J'ai passé une quinzaine sympa au travail, aux vacances, voilà. Non, c'était très bien, moi. Très bonne organisation.
Ok, bah, sinon par rapport donc la réalisation catastrophique, enfin pas catastrophique, on fait pas les pires du monde, mais ça me fait un peu, comment dire, et je suis allé en Ukraine, à Kiev, que l'État n'a pas voulu venir, et finalement, quand j'ai fait la balance entre Lisbonne et Kiev, je sais pas lesquels choisir, hein. Franchement.
Ah bah, il n'y a pas photo, hein.
C'est parce que la ville de Lisbonne, déjà, ça le coûte tout seul à aller la visiter. Et du coup, ça peut sauver tout le reste. Mais c'est vrai que c'est un peu déçu, Lisbonne, franchement.
Non, voilà. Mais Aitor, on arrivait à nous faire regretter Kiev quand même. Faut le faire.
C'est les poids et comparaisons les plus proches qu'on a, parce que c'était l'année d'avant. Et que moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé des questions. Pourquoi j'y allais, tu vois? Et finalement, je me suis dit, bon, au moins, je peux dire que j'étais à Kiev, machin truc. Alors que Lisbonne, j'y connaissais déjà. Du coup, c'était pas même la découverte de la ville. Et
Et c'est la sécurité pas... le matin, on n'avait qu'un seul accès de sécurité. C'était interminable.
Bon.
La cantine, parlons de la cantine, la non-cantine, il n'y avait rien à manger.
Tu parles
à... radins.
Oui, à Lisbonne.
Radins,
oui, oui.
Les Portugais, on n'a rien eu. J'ai acheté ma bouffe, mais il n'y avait même pas de bouffe à acheter.
Il y avait un centre commercial en face, on pouvait sortir et manger pas trop cher.
Mais c'était interminable pour sortir, fallait refaire la queue encore à nouveau pour rentrer.
Et puis, par exemple, nous qu'on aime bien faire des soirées, Tan et moi. Enfin, on s'est vu avec vous aussi, avec Fabrice, avec toi, Farouk. Ben, l'Euroclub, c'était minuscule. L'Eurovillage, on a payé une fortune pour y aller, mais finalement, c'était minuscule par rapport au nombre de personnes qui n'avaient pas d'accréditation et qui, du coup, ils voulaient y aller. Et du coup, on s'est retrouvé soit dans un endroit où on était comme des petits souris qu'on pouvait pas bouger, ou à l'Euroclub, où finalement, c'était trop petit et du coup, il nous manquait nos amis, il n'y avait pas non plus l'ambiance. Moi, enfin, c'est pas, je me suis pas vraiment ennuyé, il faut pas croire, hein. Je me suis amusé, mais quand je les compare avec d'autres années, Lisboa, pour nous, c'était l'année, quoi. C'était la ville, le concours, à ne pas rater. C'est pour ça qu'il y avait des records de monde d'inscription. Et si moi, ça avait été mon premier concours, d'ailleurs, étant le seul, moi, je me suis posé la question. Si j'arrêtais le site même, parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de se donner autant de mal comme on se donne nous avec notre site, avec notre podcast, parce qu'on passe beaucoup d'heures, les auditeurs ne s'en rendent pas compte, mais on travaille. Et vous aussi, avec toi, avec Cocorico Vision et Farouk et tout ça, Fabrice avec son site, et il y a, et Olivier, il fait plein de trucs pour les concours. On travaille pour les concours dans l'année, et après, tu vas là-bas et tu te dis, mais non, ça ne vaut pas le coup, quoi. L'année prochaine, je regarde à la télé. À ce point, j'étais le seul, hein. À ce point, quand je ne suis pas, je ne sais même pas encore si je vais à Israël, je pense qu'on ira parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Mais je me pose encore la question. Parce que Lisboa, ça a été le, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Donc, Ethan, tu veux finir avec ça?
Ben, je vais aller dans votre sens. Comme beaucoup de Français, moi, je rêve de passer mes vieux jours. Ils sont encore loin, hein. Je vous ai donné mon année de naissance tout à l'heure. Au Portugal. À Lisbonne en particulier, je suis un amoureux de cette ville. C'était ma cinquième visite, je crois, à Lisbonne. Et j'ai été tellement déçu de ce séjour au mois de mai que j'y retourne en novembre, c'est vous dire. voilà, c'est un concours à oublier pour moi. À tous les niveaux quelque part et surtout au niveau de l'organisation, c'était un enfer sur place. Alors moi, c'est pas tant la générosité qui me pose problème. Ils nous doivent rien, l'organisation. On y est pour se faire plaisir quand même. Donc j'attends pas à être traité comme un roi, même si quelque part on l'est quand on est accrédité. Mais tout était mal fichu, quoi. De la scène, on en a déjà parlé, jusqu'au contrôle de sécurité. Il nous faut des Suédois ou des Allemands pour organiser le concours. C'est une organisation telle qu'il faut un peu de rigueur. Et je crois que les gens du Sud, et malheureusement à ce niveau-là, je mets la France dedans, je pense que ce serait une catastrophe un concours en France, même si j'ai très envie qu'on gagne. Voilà, on n'est pas fait pour ça. C'est pour ça qu'Israël me fait très peur, notamment. Voilà, on risque de vivre la même chose l'an prochain. Les gens du Sud sont pas faits pour organiser un événement comme ça. Il nous faut des Suédois ou des Allemands. Je le redis.
En plus, on aura avec les problèmes de la sécurité. Enfin, on se souvient, on va aller vite, mais la soirée.
Sauf que contrairement aux Portugais, ouais, les Israéliens sont rodés à la chose. Du coup, ils savent ce que c'est qu'une fouille. Là, au Portugal, ouais, ça prenait des plombes pour rien du tout. Tu pouvais faire passer n'importe quoi dans la salle de presse ou dans la salle, sauf que ça prenait des plombes. Les Israéliens, ils savent ce que c'est que la sécurité. Qu'est une dimension sécuritaire à la chose, c'est inévitable vu l'ampleur qu'a l'événement maintenant. Ouais. Sauf qu'ils ne savent pas le faire. Ouais. En Israël, on n'aura pas de problème.
Non, mais j'ai dit que c'est par rapport à la soirée Israël qui a organisé la télé ou le tourisme.
Même
Israël,
ça, c'était raté cette année.
Non, mais j'ai parlé, excusez-moi. Ils sont mis la sécurité et c'était tellement fort la sécurité que nous, on est restés dehors. Mais malgré qu'on a fait, bien qu'on a fait la queue pendant je ne sais pas combien de temps, mais même des chanteurs, moi j'ai vu les chanteurs Alexiev de Bélarus partir. Genre, il en avait marre. On ne le laissait pas partir, rentrer au début. Il a dit, je m'en vais, je n'ai que ça à faire, à foutre, alors qu'il y avait 1000 personnes dedans. Et j'ai un peu peur des trucs comme ça l'année prochaine à Tel Aviv, parce que, en même temps, je ne pense pas qu'il y aura tant de monde qu'à Lisbonne, parce que c'est cher, hein, et c'est loin.
Cette année, il y avait tellement peu de fêtes que tout le monde s'est rué sur la seule fête qui nous était proposée.
Oui.
la soirée israélienne.
Mais imagine que l'année prochaine, bah, il y a que 4 accrédités parce que c'est dangereux et du coup que tout le monde se fait bah, l'Eurovillage et du coup l'Eurovillage, enfin l'Euro, c'est l'Eurovillage, non l'Euro, oui, et qu'il y aura tellement de monde là-bas que finalement pour pas rentrer, on fera la queue.
C'est pas. Il y aura du monde. Moi, je pense quand on a vu le concours de Kiev où on disait que personne n'irait, il y avait du monde. Il y aura du monde en Israël. C'est évident. Maintenant, c'est un événement tel que il y aura du monde quoi qu'il arrive.
Ok.
Dès les premiers jours.
Ok. Et on écoute la fin de Monsieur Salvador Sobral et on passe au sujet suivant parce que ça commence à faire très long le podcast, mes amis.
Não quiser sofrer sem fazer planos do que virá depois. Meu coração pode amar pelos dois.
C'est sans doute pas une surprise pour vous, ce podcast est monté. Pendant la pause, Farouk m'a rappelé que la chanson Azeri que vous entendez là est une chanson suédoise et que c'est sans doute pour ça que je l'aime. C'est pas totalement faux. Malheureusement, ils nous ont fait une prestation digne des années 90. On est en 2018, les gars. Oh, faut vous réveiller. Ça pouvait pas marcher, ça. Élimination méritée pour moi. La prestation était trop datée, même si la chanson ne l'était pas.
Okay. Ethan, t'es un peu méchant. C'était pas les années 90, c'était les années 2000. Faut quand même rendre à... Non, bon, c'était peut-être un petit peu vieillot. Ça fleurait bon le Melody Festival des années 2000. Mais est-ce que ça méritait de se faire éliminer? Ça s'est joué à pas grand-chose, hein, remarquez. Hein. L'Azerbaïdjan est passé ric-rac, ils sont 11e. C'était tout juste, mais c'est un événement. Pour la première fois dans son histoire, l'Azerbaïdjan est éliminé en demi-finale.
Ouais. Faut lui.
Attends, c'est mauvais. Hein. Et hop, next.
Ouais. Bon, moi, c'est sérieusement, pour une fois, ils sont mis dans l'équipe, la team, la Dream Team, qui font les prestations magnifiques, les mises en scène de la Russie, de l'Ukraine, de la Grèce, souvent, et tout ça. Et quand je me souviens que j'ai dit, mais c'est la mise en scène qui a pour moi tout gâché, parce que la chanson, elle est bien, hein. Comment ruiner une chanson? Comme quoi, des fois, les Dream Team peuvent faire aussi de la merde. Parce qu'Aïssel chantait très bien, la chanson était très bien. Donc, élimination historique pour l'Azerbaïdjan. Mais c'était pas la seule. Enfin, t'as parlé déjà, non, Ethan? Disait. Du coup, oui, et t'as présenté. On passe à une autre élimination historique. Est-ce qu'on doit l'écouter? Non, même pas. Hein, pas besoin de l'écouter. Allez, Olivier, tu peux commencer par parler directement.
Mais je l'adore, c'est la seule des trois chansons que j'adore. La prochaine hein, chanson élimination historique, c'est la Roumanie, The Humans, avec la chanson Goodbye, et qu'on n'entend pas, c'est un scandale.
Si, on attend
des fonds. Voilà. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup cette chanson, et d'où l'importance des jurys qui auraient qualifié cette chanson en finale. Bref, alors... Tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas vu le début du concours. Je n'ai donc pas vu le jeudi soir la prestation en direct de la Roumanie. Je l'ai regardé plus tard. C'est une des rares que j'ai voulu regarder après. Je n'ai pas du tout aimé la prestation. Enfin, je n'ai pas du tout aimé la mise en scène. Je trouvais ça un peu... en fait, les danseurs avec... musiciens, danseurs avec leurs masques, je les ai trouvés ridicules. Voilà, c'était pas une bonne mise en scène, mais je trouve que la chanson est très bien et elle chante. Et elle chante merveilleusement bien. Elle a vraiment une superbe voix.
Moi, personnellement, je suis content de son élimination parce que j'ai trouvé pas juste qu'elle passe tous les ans alors qu'il y a des années, elle ne méritait pas. Et celle-là, pour le coup, la chanson, elle n'était pas là, quoi. Là, elle a eu la 9e position des jurys parce que c'est vrai qu'elle est magnifique en live. Elle sentait très bien. On peut comprendre les jurys.
Elle termine 11e.
Oui, parce que c'était 9e et 13e. Donc 11e au final. On peut comprendre les jurys parce que tu ne peux pas dire qu'elle a mal chanté. Mais la chanson, si tu fermais les yeux, ce n'est pas horrible en fait. mais la mise en scène c'est un peu ridicule. Et par contre, les Romains, ils sont un peu exagérés, je trouve, parce que ils sont demandé la démission de toute l'équipe responsable, alors qu'ils sont finis 11e quand même. Combien de fois, combien de chansons magnifiques, ils sont finis beaucoup plus bas dans les demi-finales, des Estoniennes, et par contre, les Steel Owls, c'est magnifique, je trouve, ils m'ont pas dit, enlever les responsables de les Steel Owls. La Roumanie 11e, c'est pas si mal par rapport à la chanson, c'est la chanson qui est une catastrophe éteinte. Tu veux dire quelque chose?
Je vous rejoins tous les deux dans le sens où la chanteuse était bluffante. Puis en plus, elle est belle. Enfin, voilà. Elle est super. Après, moi, la chanson ne m'intéresse pas. La mise en scène était effectivement mauvaise. Donc, leur élimination ne me déçoit pas.
Ben, moi, je vais aller à contresens par rapport à vous. Olivier avait dit bonne chanson et mise en scène nulle. Moi, je pense que la chanson était nulle et que la mise en scène, et dans la mise en scène, j'inclus aussi la performance de la chanteuse qui était très réussie, était plutôt bonne. Mais c'est la chanson qui, pour moi, était le problème. Elle pouvait la chanter aussi bien qu'elle voulait. La chanson qui datait des années 80, loin, n'avait vraiment aucun intérêt.
Bah oui, t'as tout à fait raison. Il n'y avait pas d'intérêt. Bon. Et si on parlait d'élimination hystérique, hystérique aussi, mais surtout historique, c'était pas une blague, c'est vrai qu'il m'est sorti comme ça dans la bouche. C'est cette chanson hyper bien interprétée. Écoutez, écoutez. Bon. On va pas se moquer de la pauvre Julia Jarmiloa, parce que je sais même pas si c'est elle qui a voulu aller à l'Eurovision, je me demande. Mais élimination historique, mais méritée, parce que vraiment Julia Jarmiloa n'était pas dans l'état d'interpréter ces chansons-là. Elle a chanté très 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 fort dans toutes les répétitions. Ils ont mis dû mettre des choristes. D'ailleurs, ils n'étaient même pas russes, c'était des choristes israéliens si je ne me trompe pas, qui ont chanté toute la chanson et pour essayer de cacher sa voix. Enfin, moi personnellement, je suis content de l'élimination de la Russie. En tout cas, pour une fois méritée. Ethan.
Ah, mais moi aussi, c'est la meilleure nouvelle de cette Eurovision. L'élimination de la Russie, quand ils envoient ça, c'est largement mérité. Je trouve ça grossier, putassier, enfin tout ce qu'on veut. C'était ni fait ni à faire. Heureusement, ils ont été éliminés.
On a quand même tremblé qu'elle ne passe en finale, mais heureusement, elle a été éliminée. Je dirais que c'est bien fait pour les Russes. Ils ont voulu jouer au plus malin il y a l'an dernier, en envoyant cette chanteuse dont ils savaient qu'elle aurait des problèmes pour rentrer en Ukraine. Moi, ce que j'attendais de la Russie après le concours de Stockholm, c'était une Russie qui nous enverrait un truc super, une énormité qui rapporterait le concours à Kiev au nez à la barbe des Ukrainiens. Non, ils ont voulu la jouer finaux en envoyant une chanteuse dont ils savaient qu'elle ne pourrait pas être autorisée à rentrer sur le territoire ukrainien. Ils nous la remettent cette année parce qu'ils se sont engagés l'an dernier à la renvoyer. La chanson, c'est même pas une chanson, c'est une catastrophe. Franchement, c'est mérité. Maintenant, j'attends des Russes qui nous envoient un bon truc. Il y a du potentiel en Russie. Ils ont une scène électro qui est quand même pas trop mal. Il y a des moyens de nous faire un truc bien l'an prochain à Tel Aviv.
Next.
Ok, bah next, ça veut dire que on va écouter la chanson suivante. Hein. On va la découvrir en musique.
Et quand on a gagné l'Eurovision et qu'on revient, c'est toujours très compliqué. Alexander Rybak avait gagné en 2009 pour la Norvège. Et là, il nous proposait une chanson swing qui était plutôt pas mal mise en scène. C'était très carré, c'était très très pro. Je pense que le premier problème, c'était la chanson. Le swing, ça a jamais beaucoup marché à l'Eurovision. Et on s'est emballé par rapport à la mise en scène et à la prestation. On a oublié que la chanson, finalement, était pas si extraordinaire que ça. Ce qui est assez surprenant, c'est l'écart entre son classement en demi-finale, puisqu'il remporte la deuxième demi-finale, et son classement en finale, où là, il termine 15e. Je ne comprends pas cette baisse brutale, et je la comprends d'autant moins que c'est pas cohérent au niveau des jurys. Je peux comprendre que le public soit versatile et que ce soit pas les mêmes personnes qui votent en semaine et le samedi soir. Par contre, je comprends pas que les jurys, il y a un tel désaveu. ils se désavouent eux-mêmes. C'est quand même assez bizarre. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que vraiment le problème, c'est les jurys. Il n'y a aucune cohérence dans ce vote des jurys. C'est n'importe quoi. Leur professionnalisme est douteux. Je rappelle quand même que dans le jury français, il y a un ou deux ans, il y avait une certaine Ella ou Enea, je ne sais plus, qu'on a vu à Destination Eurovision. Si ça, c'est du professionnalisme, là, il y avait vraiment des questions à se poser.
Voilà, pourquoi pas, elle est chanteuse, je suis pas d'accord, mais bon. Et Olivier?
Non, je passe mon tour.
Passe ton tour. Et moi, je pense que c'est plutôt Farouk, parce qu'il vous parle par rapport à la différence. Enfin non, là, tu parlais par rapport au jury télévote. Moi, c'est aussi par rapport aux demi-finales et finales. Je pense qu'il y a des fois, les gens ne votent pas pareil en demi-finale qu'en finale. Parce qu'en finale, et on vote par notre chanson favorite, pour notre chanson favorite. En demi-finale, on vote pour la chanson qu'on veut sauver parce qu'on pense qu'elle va pas passer et qu'on pense, enfin, souhaite qu'elle passe. Et des fois, des chansons qu'on considère meilleures, on dit, ben non, mais elle va passer. Par exemple, l'Israël. L'Israël,
Heiter, tant qu'on n'aura pas une étude sociologique des gens qui votent, on saura jamais.
Non, mais j'y parle par rapport aux résultats que je vois, j'invente pas. Hein. Enfin, déjà, je sais comment je vote, comment une fois j'ai voté 20 fois pour l'Andorre.
T'es un Eurofan. Oui, mais.
Oui, mais tu regardes les résultats et des fois, c'est tellement différent que tu te poses la question. Ouais, aussi, c'est pas forcément le même public, il faut le dire, hein, parce que les demi-finales, c'est plus.
Oui.
C'est les Eurofans, peut-être, qui regardent
oui.
plus.
Moi, je pense que le vote des Eurofans, c'est peanuts.
Ok.
Par 11 demi-finales, justement. Et c'est flagrant en France, le public de France 4 qui va disparaître et peanuts. Et donc, les Eurofans font le vote sur les demi-finales, ce qui n'est pas le cas en finale. Donc, c'est difficile de comparer finale et demi-finale. Quoi qu'il en soit, pour la Norvège cette année, tant mieux s'il est dans en bas de classement, je sais même pas combien il est fini. En finale, c'était sans intérêt, autant sa victoire était méritée, autant là, il revient avec un truc sans intérêt, il est pas haut, c'est normal. Okay. C'est tout ce que j'avais à dire.
Ok. Parce que moi j'ai profité et je n'ai pas voulu réécouter la chanson norvégienne. Je me suis dit, on passe à la chanson suivante que tu écoutes. On écoute quelques secondes, mais elle est déjà commencée. Regardez, Tan.
Ah, et j'espère qu'on va l'écouter 3 minutes celle-là. Parce que la chanson est fabuleuse.
Écoute, écoute, Tan, et Tan. Désolé parce que j'avais commencé à monter les volumes, mais t'as commencé à parler dessus, c'est pour ça que je te disais. Vas-y.
Pardon. C'est vrai qu'il faut l'écouter, il faut pas que je parle dessus. C'est très bien si vous avez pu écouter quelques secondes. La chanson est super, la prestation était pas terrible. Je sais pas pourquoi c'est moi qui me retrouve à en parler en premier, mais c'est comme ça. Les Australiens, moi je les adore. Ils font les choses sérieusement, ils envoient des trucs de qualité, ils font des efforts, les commentateurs sont chaque année super. Il est question cette année qu'il y ait une finale nationale, même si rien n'est confirmé, j'en suis très heureux. Moi, je suis très content de leur présence à l'Eurovision cette année. Bon, bah, le résultat global était pas terrible. La chanson, je l'aime.
La chanson est fabuleuse avec quand même beaucoup de fausses notes. Hein. Elle n'a pas été extraordinaire. Et ce qui est bizarre, c'est que les jurys ont été indulgents sur les fausses notes en la classant pas trop mal, alors que le public n'a pas aimé. On sait que le public européen n'aime pas.
Ils votent pas sur le même show. Hein. Oui, le jury vote sur le vendredi soir, les téléspectateurs sur le samedi soir. Donc du coup, sur la justesse, il peut y avoir des écarts.
Oui.
Bon, enfin, globalement, elle a été à peu près constante sur la justesse, sur les 15 jours. Je pense que le public européen n'aime pas l'Australie tout bêtement, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est pas en Europe. Sinon, bon bah, moi je l'aimais bien, Jessica.
Et Israël et l'Azerbaïdjan, qu'est-ce qu'ils foutent là?
Oui.
C'est pas en Europe non plus.
L'Azerbaïdjan, si.
Non. Dans géographique, non, historique.
C'est sur la frontière. C'est sur la frontière.
Israël, ils sont au moins dans l'Europe historique.
Enfin, bref, l'Australie, je sais pas pourquoi, les Européens n'aiment pas. La chanson était pas mal, mais bon, mal chantée, elle était mal fagotée. Mais elle était heureuse d'être là, alors c'est triste pour elle, quoi, d'être la dernière au télévote.
Si elle était heureuse, qu'elle le reste. Non, c'était mauvais. Next.
Ok. Et même si on va passer à la saison suivante pendant qu'on parle, mais pour aller plus vite, mais je parle rapidement de l'Australie. Et si je l'ai mis dans cette position de les podcasts, que c'était pour voir la différence entre majorité et les votes, demi-finale, finale aussi, c'est parce que ça m'a un peu surpris. Et si on était sur la scène, quoi, sur à Lisbonne, il y avait trois chansons qui vraiment. Enfin, il y avait aussi l'Espagne parce qu'il y avait tous les Espagnols, il y avait la France parce qu'il y avait certains trucs sur la France, etc. Oui, mais il y avait trois chansons que tout le monde se levait. Bon, une ça sera celle qui va fermer le podcast, je ne l'annonce pas. Mais l'autre c'était l'Israël et l'autre c'était l'Australie. C'était impressionnant les cris des publics à chaque fois.
Non mais
Aitor,
c'est une chanson de fan. Arrête.
Non mais du coup, non mais moi je m'étais dit ok, c'est une chanson de fan, mais moi. Depuis que j'ai vu à l'Eurovision, excusez-moi, laisse-moi dire ça. Depuis que j'ai vu à l'Eurovision 2006, j'étais dit, il y a toujours 3 ou 4 chansons qui se démarquent, et tous les, pas pour les publics, hein, et tous les ans, c'est une de ces 4 qui gagne. Tous les ans. J'ai jamais vu un concours où une chanson qui a gagné, personne n'avait vu venir sur place. Qui a gagné, hein, je dis pas dans les tops, qui a gagné. Et c'était, du coup, pour moi, c'était une possible gagnante. Même les Lordi, c'était hyper applaudi quand j'étais en Grèce. C'était impressionnant.
Dans la salle d'Australie cette année, c'était incroyable. Je suis d'accord avec Aitor.
Et du coup, j'étais surpris quand il a fini dernier du télévote. Parce que je me disais, s'il est aimé au public ici, ça veut dire que les télévotes au moins doivent apprécier, c'est les jurys qui doivent punir ces fausses notes, quoi. Bon, désolé, j'ai parlé beaucoup. Et on a tous parlé de l'Australie, et là, vous écoutez déjà l'Ukraine, que vous n'avez pas besoin d'écouter, peut-être parce que vous la connaissez par cœur, à Melovin avec Under the Ladder. Moi, j'ai voulu la mettre là, parce que s'il y en a un qui a eu un écart impressionnant entre les jurys et télévotes, c'était lui, hein. Je sais pas si vous avez aperçu, mais il était dernier des jurys, les pauvres, quand on croyait très dernier qu'il allait finir dernier du concours, et poum, 7e du télévote, poum, il a fini 17e, c'est pas non plus dans les top 10, mais quand même, 7e du télévote, et en demi-finale, c'était un peu pareil, hein, parce qu'il avait fini pas exactement pareil, mais il avait fini 10e du jury, donc de justesse. Mais Catherine du télévote, donc il y a un énorme écart entre les gens qui ont trouvé ça merdique, alors que pour le coup, moi je trouve que c'est pas si mal. Ok, mais bon.
Maintenant, t'as raison.
Et Tana ?
Moi je l'ai trouvé presque meilleur en finale nationale, c'était pas mon favori de la finale ukrainienne, mais je l'ai trouvé presque meilleur en finale nationale qu'à l'Eurovision. Après, ça restait une prestation assez impressionnante, avec une chanson pas mauvaise. Donc voilà, effectivement. Je comprends pas le classement du jury, même si je le voyais pas gagnant.
Non, évidemment qu'il gagnerait pas, mais enfin là, les jurys, c'est n'importe quoi. Là. C'est pour ça que je pense qu'il va y avoir vraiment un problème sur les jurys. Il méritait pas d'être dernier. Un milieu de classement, c'était ce qu'il lui fallait, c'était ce qu'il méritait. Mais là, dernier des jurys, alors qu'il y avait des gens qui n'ont pas arrêté de chanter faux, je trouve que c'est quand même n'importe quoi.
C'est bizarre quand même, oui. Quelqu'un veut en parler encore, Olivier, ou pas?
Non, suivant.
Ok, on passe à la chanson suivante alors.
Sur ces notes de saxo, enfin, je pense que c'est un saxo, moi je suis nul en musique, hein, je suis fan de l'Eurovision, je ne suis pas un fan de musique. Du coup, j'ai perdu le fil. Eh ben, c'est malin. C'est donc la Tchéquie qui ouvre la section des. Bonne surprise ou pas, entre parenthèses. La Tchéquie, pour moi, c'était le titre dans l'air du temps, avec un beau gosse qui chantait, qui devait gagner, enfin qui aurait dû gagner. Et puis, non. Alors, c'est assez incompréhensible pour moi. Il y a eu tout le truc autour du « je me suis fait mal, attention ». Mais finalement, les téléspectateurs, ils s'en foutent de ça. Je suis très surpris de son classement final. Pour moi, il était forcément dans le top 3. Et puis, ça n'a pas été le cas. Ma sœur s'occupe d'un club de handball, ça intéresse personne, mais tous les ans, elle doit choisir une chanson en début de saison pour lancé la présentation des joueurs et cette année, elle a choisi cette chanson. Ma sœur n'est pas fan de l'Eurovision, elle regarde parce qu'elle me connaît. Il n'empêche que ce titre lui a tapé dans l'œil et ou dans l'oreille. Et voilà, moi, ce classement me surprend. Pour moi, c'est ça l'avenir du concours et je comprends pas qu'il n'ait pas fini plus haut, même si c'est un classement honorable.
Bah, la réponse, elle est simple, hein, c'est à cause des jurys. 15e au jury, 4e au télévote. Là encore, les jurys ont fait preuve de leur non-clairvoyance en mettant aussi bas cette chanson qui, effectivement, je suis d'accord avec toi, est l'avenir du concours. C'est une belle prestation. Lui, il a une gueule. Après, vraiment, il y avait rien de faux là-dedans. Il méritait le top 3, tu l'as dit. On est content pour les Tchèques pour leur premier top 10. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'injustice par rapport à ce classement. Ils auraient dû être plus haut.
Ah, tu m'as dit que c'est le jury qui l'a saqué, c'est ça?
Ah, bah oui, 15ème. Ah,
oui. Là, oui, là pour les coups.
Les jurys regardent via un écran. Et via un écran ou via ce qu'ils voient en salle?
Non, la télévision comme nous.
Oui, et ben,
la télévision comme nous, mais avec, oui. Avec un casque sur les oreilles.
Ouais. Et ben, je suis désolé, mais à la télévision, la prestation, c'était chiant. Non, franchement, la première partie, comme toute la première partie où ils sont séparés, c'est chiant. J'aime bien les chansons, mais c'était chiant. Après, quand ils se regroupent, ça va beaucoup mieux. Bon, j'aime pas trop le coup des fesses popotin, mais bon, ça c'est pas très, très grave. Mais non, mais toute la première partie où ils sont tous les trois sur trois parties de la scène, à la télé, c'est chiant. C'était pas bien. Et c'est peut-être pour ça que les jurys n'ont pas apprécié. Enfin, voilà, c'est tout ce que je me souviens. D'ailleurs, c'est bon pour moi.
Ok. On écoute déjà la chanson suivante parce que je voulais pas que ça s'éternise, mais sur la Tchéquie, comme je suis d'accord avec vous tous, juste pour dire que mon neveu, il adore aussi la Tchéquie et Nicolas Youssef, Light to Me. Je suis d'accord à ce que vous avez dit, à peu près certains ou pas d'autres. Pas tous, mais oui. Et Irlande. Pourquoi on écoute l'Irlande? Parce que c'était une bonne surprise. Quand on a écouté la première fois l'Irlande, il a passé complètement inaperçu. Quand on avait vu le vidéoclip, on a aimé un petit peu plus. Quand on a vu le vidéoclip sur scène, moi, ça m'a beaucoup plu, j'avoue, parce que, ça me faisait plaisir de faire chier les Russes et ce pays qui tremblait en regardant ça. Et les bookmakers, ils sont même tellement cru que le jour de la finale, je pense qu'il était au top 3 pour gagner le concours. Là, pour le coup, c'est un peu les phénomènes, comme un peu les Gétanes avec la France. Il y en a qui ont bu ces jours-là. Enfin, c'est pas qu'étant vu, je veux dire qu'il y en a qui croyaient tellement au truc. Même nous, on a presque fini à croire à l'Irlande. Fini 16e, par là, je crois. Hein. Mais bon, c'était une bonne surprise quand même. Ethan?
Je suis tout d'accord avec toi. Et en plus de ce qu'ont pu vivre les téléspectateurs, il y a eu le truc dans la salle. Au moment où le couple de danseurs arrive sur le pont, il y a une sorte de clameur dans la salle. Ça s'est produit à chaque fois, puisqu'on l'a vu 4 fois live dans la salle, qui fait que l'émotion monte forcément. Voilà, c'était un chouette moment de cette Eurovision, même si personne ne pensait que l'Irlande pouvait gagner cette année. Moi, je suis très content qu'ils aient été là. Je suis très content de la prestation finale. Je trouve que c'est un chouette moment.
Oui, ok, il y a la prestation, mais on oublie qu'il y a une chanson et la chanson elle est quand même bien chiante. Hein, et je pense que on s'est emballé par rapport au soi-disant message, par rapport au clip. C'est oublié que c'est aussi un concours de chansons et que celle-là est quand même bien ennuyeuse. T'enlèves le clip, je pense que tu n'écoutes pas cette chanson.
Oui, ça me dérange pas d'écouter.
J'ai rien de vraiment à dire sur la chanson, donc next pour moi.
Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai sauté sans vouloir. C'était Olivier qui aurait dû la présenter.
Oui, voilà. En même temps, en plus.
Ben oui, ok. Et on passe à la suivante. Que ça, c'est par contre une des meilleures chansons de l'Eurovision cette année. Désolé. Non, je sais comment.
C'est moi qui présente. C'est la Hongrie. C'est AWS /Niar. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je peux y aller. Non, mais là, on n'a pas besoin de beaucoup parler parce qu'on est tous fatigués. Mais Moi, j'ai marqué dans le fichier. Ils m'ont fait pleurer dans leur live. Et ça, c'est vrai. Hein. C'est, je vous l'avoue. Il y a des je pense qu'il y a deux chansons qui m'ont fait un peu pleurer. Enfin, pleurer, non, pleurer, là, comme ça, mais ému un peu comme ça en live. C'était l'Espagne, évidemment. Et c'était la Hongrie. Je sais pas qu'est-ce que j'avais. Parce que c'est un peu, parce que c'est pas une chanson pour émouvoir. Mais en live, le bruit, la lumière, le truc. Ah, moi, ça m'a, j'adorais. Du coup, peut-être que je suis fan de Heavy et je savais pas. Mais vraiment, ça m'a paru un truc intense, quoi. Du coup, pour moi, c'était la bonne surprise. Et plus apprécié par les jurys que dans les télévotes ou l'inverse. Par contre, ça, je suis pas sûr. Mais on s'en fiche un peu, non? Et Tal, qu'est-ce que tu veux en dire?
Moi, j'ai aucun avis sur la Hongrie cette année, si ce n'est que pendant le show live, la finale, j'avais mon téléphone dans la main et je filmais deux fans, eux, françaises, en train de s'éclater là-dessus dans la fosse. Je pense pas qu'elles sont auditrices de notre podcast, mais si jamais elles le sont, on les salue, elles se reconnaîtront. Voilà, c'est pas pour moi ça.
On est tous fatigués, cette chanson nous fatigue encore plus. Je suis plutôt bon public avec du rock et même du hard rock, mais pour moi, ça c'est du bruit, c'est insupportable et j'ai qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Elle est passée en finale de justesse, hein. Elle a pris la place de la Roumanie. Hein.
Bah, t'as mieux. Pour une fois, je suis content. Mais... Grâce au télévoto, c'est cafou, donc tu devais être content, Ethan. Oui, Farouk. C'est la bien placée, cinquième. Bon, chanson suivante. On parlait pas beaucoup, vous inquiétez pas, parce qu'on a presque fini les podcasts, je vous assure, messieurs, dames. J'ai voulu parler de ce pays-là, c'est qui doit la présenter, au fait? C'est moi ou c'est qui? C'est peut-être Ethan? C'est toi, Ethan?
Je suis perdu.
C'est un pays avec Inanna qui a arrêté la musique comme
c'est pareil. C'est moi, oh pardon, en plus je l'adore.
Ah. Qui est-ce?
C'est la Slovénie.
Oui, et alors?
Eh ben, elle était juste fabuleuse. Je sais pas pourquoi c'est moi qui la présente encore une fois, puisque moi je voulais pas essayer d'en parler, mais il n'empêche qu'elle a été fabuleuse. En finale nationale, la prestation était bluffante et je me disais, ça va être difficile de reproduire ça sur la scène du concours. Ils ont réussi à le faire, malgré le truc de j'arrête la musique et je recommence qui était un peu naze. En demi-finale, c'était carrément naze. En finale, ils l'ont un peu corrigé, c'était moins naze. Elle était quand même bluffante.
Moi, je vous dirais que c'est toute la prestation qui était naze et pas seulement l'arrêt au beau milieu.
Non, elle était super.
Non, c'était naze. Désolé.
Olivier, un truc positif?
Moi, c'était un peu une chanson... honteuse que j'aime beaucoup, voilà, mais voilà, la prestation m'a pas transcendé et j'ai pas aimé la coupure.
Bon, voilà. L'UR l'a mis en position 3 entre l'Espagne et la Lituanie, genre on va mettre quelque chose pour réveiller l'Europe entre les chansons balades, mais elle a devancé l'Espagne des 3 points, elle a fini juste devant l'Espagne dans les classements. Qui nous aurait dit ça quand elle avait écouté le Slovénie, alors que je vous avoue qu'actuellement j'aime beaucoup cette chanson, hein. Et je trouve que Léa, elle était vraiment parfaite en live, et les danseuses, vraiment, si tu regardes la prestation, c'est impressionnante. La chanson après c'est difficile, et cette coupure qu'on écoute là, c'était nul, mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'était une bonne surprise, parce que j'aurais jamais dit que les Slovénie arriveraient si loin avec ces chansons. On passe à une des dernières surprises, bonne ou pas, c'est quoi, comme chanson, Farouk?
C'est la Finlande, c'est Sarah Aalto avec Monsters. Bon, elle a complètement raté son Eurovision. Je pense que la chanson volait quand même pas haut. Les jurys ont pas trop apprécié, le public a apprécié un peu plus. Mais si vous grattez un petit peu dans le vote de demi-finale, vous verrez quand même pas mal de votes de pays du Nord. Donc, j'ai envie de dire qu'elle a gagné. Elle a gagné sa place en finale grâce au vote des voisins, faut le dire. C'est à cause d'elle que l'Azerbaïdjan n'est pas en finale, peut-être. C'était raté. Moi, je pensais qu'elle allait se faire éliminer, pour être franc. Quand elle a été qualifiée, j'étais assez surpris. Donc finalement, quand je vois qu'elle s'est qualifiée de justesse, c'est cohérent. Elle en a fait des tonnes, voilà. C'était un petit peu limite kitsch, voilà, très kitsch. Les fans adoraient, bien sûr, mais voilà. Chanson de fans.
Bah là aussi, j'adore la chanson. J'adore vraiment la chanson. Je n'ai pas du tout aimé la prestation. Franchement, je ne comprends pas que ce soit passé parce que je déteste la prestation. Je trouve ça moche et qui n'apporte rien du tout.
Bon, en demi-finale, c'est les jurys qui l'a fait passer 15e. C'est les télévotes 7e. Donc, c'est le public qui a aimé. Hein. Donc, pour Faro, que tu n'aimes pas, bah, c'est les télévotes qui l'a sauvé, figure-toi. Hein,
oui, mais regarde les votes. Du télévote, tu verras qu'il y a beaucoup de Suède, Norvège, oui, machin, oui. Tous les voisins.
Si, tu as peut-être raison, je n'ai pas regardé ça. Ok, et tant tu voulais dire quelque chose sur Sara Alto ou pas?
Non, si ce n'est que c'est tout ce qu'on aime normalement, les Eurofans à part Farouk, voilà, c'est tout ce qu'on aime dans ce concours. Après, je reconnais que ça gueule du début à la fin, la mise en scène était overchargée, donc ça aurait été éliminé, ça m'aurait pas surpris. Mais ça me déçoit pas que ça ait été qualifié.
Ok. Et du coup, on va écouter maintenant la chanson. La chanson. Par contre, là, on se permet d'écouter les débuts. Ok? Comment? Parce que l'année dernière, on allait vite.
Oh.
Bon, excusez-moi. Bah, désolé si j'ai voulu fermer les podcasts avec ces chansons-là. À la base, ça allait être la chanson numéro 2 du podcast après l'Israël. Pourquoi parce qu'il était vraiment dans les chansons du top et il a fini deuxième du télévote, deuxième du concours. Il méritait d'être reçu début du concours. Bon, pourquoi je l'ai mis pour fermer? Parce que Eleni Foureira avec Fuero, Chypre, la meilleure position de Chypre dans l'histoire. Elle a très peu près raté le concours et même nous à la fin on ne savait plus si l'Israël ou le Chypre gagnerait. On a fini par croire alors que quand on avait fait les podcasts avant le concours, moi personnellement je ne la mettais même pas au top 10. Hein. Et actuellement j'avoue que c'est une de mes chansons favorites parce que c'est impressionnant et même si elle a regardé, je trouve que c'est bien la chanson alors que voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça, c'est que bon, vous le savez mais pour les gens des podcasts, et Eleni Foureira, elle a été un vrai succès en Espagne. Ça, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, c'est la vraie gagnante de l'Eurovision parce que c'est la chanson. Non, il y en a plusieurs qui peut-être ils sont passés dans la liste de vente, mais un peu anecdotiquement, mais la semaine dernière, je parle de début octobre. En Espagne, j'y étais et c'était numéro 1 de la radio 40 principales. Que bon, c'est une radio où tu payes pour être numéro 1, il faut pas croire. Mais il passe partout dans les radios. Ma sœur le connaît, mon neveu le connaît. Et pour moi, c'est historique. Qu'une chanson de Chypre passe à 40 principales. Quand j'étais jeune, il y avait jamais des chansons de l'Eurovision, je vous rassure. Et dernièrement, c'était Laurine, c'était Måns Zelmerlöw. Et ça, donc, pour dire quelque chose. Donc, pour moi, la gagnante de l'Eurovision, Eleni Foureira, voilà, Ethan.
Alors moi, je suis très partagé sur Chypre, parce que c'est tout ce que j'aime à l'Eurovision. Je suis un fan des années 2000 du concours, Elena Paparizou et consort. Voilà, c'est ce que j'aime au concours, sauf que je vous ai dévoilé mon âge tout à l'heure, je peux le redire, j'ai 40 ans et je suis pas l'avenir du concours. Et quelque part, ça, c'est un peu le concours des années 2000. Et en plus, c'est quand même du sous Beyoncé. Hein, justement, tout à l'heure, je vous parlais de ma sœur qui est pas fan du concours. Bon, bah, elle a trouvé ça minable parce qu'elle connaît les prestations de Beyoncé et qu'elle sait qu'on peut faire bien mieux dans ce style-là. Donc voilà. À la fois, je reconnais que c'était bluffant, je l'ai dit ça aussi tout à l'heure, c'est un des deux moments où le centre de presse s'est tu, ou tout de moins a été impressionné et a ouvert la bouche. On était tous impressionnés par ce truc, Sacha Jean-Baptiste, encore une fois. Et en même temps, eh ben, c'est déjà daté. Et il faut que l'Eurovision passe au-delà de ça pour survivre. Ça me fait de la peine parce que c'est ce que j'aime.
Mais là, je t'ai dit.
N'empêche que il faut qu'on passe au-delà.
Oui, mais tu aurais dit la même chose avant le concours, mais la preuve, c'est qu'il est un succès en Espagne, donc c'est pas
si daté que ça. L'Espagne, c'est pas le summum de la modernité non plus.
Non, c'est pas l'or. Ok, mais non, mais vous rigolez, mais est-ce qu'on, bon, ok, vous rigolez, mais ce qu'on cherche quand on va à l'Eurovision, c'est avoir un succès en Europe, et elle a réussi avec ces chansons-là, donc bravo
c'est
pour
vrai,
elle, quoi.
C'est vrai.
Farouk.
En Espagne, elle laisse qu'elle ait
l'Olympia. Gratuitement, mais t'as raison.
Farouk?
Je pense que le fait que ça ait marché en Espagne n'est pas le signe que c'est un grand succès européen. Ça a marché en Espagne. Le titre, en plus, il est Fuego, ça veut dire feu en espagnol. Moi, je suis pratiquement d'accord avec tout ce qu'a dit Ethan. Effectivement, c'est très bien fait, mais ça fait déjà dater. Beyoncé faisait ça dans les années 2000. Tu prends du Beyoncé, tu rajoutes un petit peu de sonorité balkanique pour faire un petit peu gréco-méditerranéo. Et puis, voilà. Et effectivement, c'est une chanson que peuvent aimer des trentenaires, quarantenaires, mais c'est plus l'avenir du concours. Voilà. Mais sinon, c'est une très jolie prestation. Et j'ai envie de dire que si elle, sans le mouvement MeToo et tous les trucs autour, à mon avis, elle aurait pu gagner le concours. Mais je pense que ni elle, ni Netta, ne seront des gagnants qui resteront dans la légende. C'est des gagnants oubliables pour moi.
Tout ce que je pense de cette chanson et de sa interprète, vous les avez dans les podcasts précédents. On a parlé de cette chanson. Voilà.
Et c'était quoi, Burke?
Alors, grosso modo, j'habite à Saint-Denis, des péripapéticiennes, j'en ai en bas de chez moi, j'en ai pas. J'en ai
aussi à l'heure de ça.
Bon. Du coup, on a tous parlé.
Je voulais pas terminer là-dessus le podcast. Bon, voilà, désolé.
Aitor est vexé maintenant, ça y est.
Non, fuero. Et je sais pas combien ça va durer le podcast parce que on a coupé beaucoup de morceaux.
18 heures.
Mais je pense que on risque d'avoir passé les 2 heures. Du coup, c'est peut-être notre podcast le plus long. Hein. Mais c'est la première fois qu'on fait dans un seul podcast. Normalement, c'est 2 podcasts.
30 chansons, on fait.
Mais magnifique résumé de l'Eurovision. Vous savez tout maintenant, hein, nos avis. On commence maintenant la saison numéro 7 de notre podcast. Et la prochaine fois qu'on se verra, je pense que ça sera déjà en novembre, potentiellement avec un concours pour des enfants, hein, je pense, potentiellement. Et
on va inviter le neveu d'Aitor.
Voilà, pour l'inviter, c'est vrai. Mais ça passe pas en Espagne, en fait, l'Eurovision Junior. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je dis de mon côté, à bientôt.
À bientôt sur Eurovision69.com.
À très bientôt sur Eurovision69.com. Il faudrait qu'Ethan fasse son article bilan.
Ah non, mais là, c'est trop tard.
C'est trop tard.
Ce sera le podcast, l'article bilan. Et donc, à bientôt pour le prochain podcast consacré au concours junior.
Ok, il se dit au revoir avec Fuego. Fuego. Got me belly down, fly, yeah.